récit de persécution. Mais comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Galates 4, 29. En effet, tous ceux qui sont résolus à vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. 2 Tim 3, 2 et d'autres subir des épreuves par de cruelles moqueries et des flagellations, oui, y compris des chaînes et l'emprisonnement. Ils furent lapidés, sciés en deux, tentés, tués par l'épée. Ils allèrent errants, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, affligés et tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 36-38. Et de même, les premiers quakes souffrirent pareillement, tandis que la prostituée de Babylone continuait à boire le sang des saints. De ses vrais disciples, Jésus a dit, « Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 20. À l'époque de Fox, il y eut 5 gouvernements en Angleterre, Charlie et Oliver Cromwell, Charlie, Jacques Yee et Guillaume et Marie. Sous le seul règne de Charlie, 13 562 Quakers furent emprisonnés, 338 moururent des blessures infligées lors de réunions ou en prison, et 198 furent envoyés en esclavage au-delà des mers. Source, Catholic Encyclopedia. Sous les 4 premiers souverains, Bess et Sufferings recense 869 Quakers morts en prison. Lorsqu'on les envoyait en prison, même leurs enfants étaient vendus comme esclaves. D'innombrables autres virent leurs biens mobiliers et immobiliers saisis comme butin par les tribunaux, après condamnation pour refus de prêter serment, refus d'ôter leur chapeau au tribunal, fait de voyager le dimanche, absence aux offices religieux approuvés par l'État, refus de payer la dîme aux paroisses approuvées par l'État, et pour s'être réunis dans un culte non approuvé par le gouvernement. Ceux qui persécutaient les Quakers étaient des baptistes, des épiscopaliens, des presbytériens et des puritains congrégationalistes, prétendant qu'ils étaient les vrais brebis et que les Quakers étaient les loups déguisés en brebis dont Jésus nous avait avertis. Mais des brebis tuent-elles des loups? Non, les loups tuent les brebis, et ainsi les premières brebis Quakers souffrirent lorsque les loups protestants les tuèrent, les emprisonnèrent, leur prirent leurs biens et les envoyèrent en esclavage. De la parole du Seigneur au-dedans, les chrétiens craignaient les premiers Quakers tout comme les juifs craignaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'en quelques courtes années, des églises chrétiennes entières furent vidées de leurs auditeurs qui écoutaient des prédicateurs répéter les paroles de la Bible pour devenir des auditeurs de Christ dans les réunions silencieuses Quakers. Tiré de Mary Haugill, une prophétie venant de Dieu, sur la raison pour laquelle il a permis les persécutions. Le gouvernement puritain de Cromwell avait sévèrement persécuté les Quakers pour ne pas payer la dîme et pour refus de prêter serment. Le roi Charles y revint sur le trône et, peu après, interdit tout office autre que celui de l'Église d'Angleterre, avec de lourdes amendes, la saisie des biens, des emprisonnements et, enfin, le bannissement vers les colonies caribéennes de la Jamaïque et de la Barbade. Juste avant que cela n'arrive, Mary Haugill eut une vision des terribles persécutions à venir. Elle en fut consternée et se tourna vers le Seigneur, le suppliant de l'empêcher. En réponse, le Seigneur dit ceci, « Je laisserai venir cette violence et que les chaînes des bêtes sauvages soient brisées, afin qu'elles courbent un peuple raide de coups et contredisant opposants, contre moi et contre mon nom. J'endurcirai le cœur de Pharaon, afin de montrer ma puissance sur tout homme et toute femme, et je souffrirai permettrai que les violents poursuivent leur violence pour l'épreuve de la foi de mon propre peuple, à qui j'ai fait connaître mon royaume, et à qui j'ai confié mes secrets, sur eux dans la lumière de ma face je ferai briller mon éclat, et ils verront la gloire de mon trône, et ils magnifieront mon nom. Et après la nuit de l'apostasie, et après la rage du dragon, mon peuple rendra un témoignage plus avant de mon grand et glorieux nom, et ils laisseront consigner un témoignage plus clair et plus céleste que mes serviteurs ne l'ont fait auparavant, et cela demeurera à travers les âges et dans les générations à venir, afin qu'on voit comment Dieu s'est manifesté à son peuple en un jour de grande souffrance. » Une prophétie rapportée par Mary Haugill, 4660. La prophétie complète est disponible à la lecture, cliquez ici. Ainsi, doux lecteur, les persécutions que vous allez lire furent permises pour trois raisons, comme le Seigneur l'a dit, pour éprouver la foi de mon peuple, faisant entrer beaucoup de Quakers dans le royaume, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Comme le Seigneur l'a dit, pour magnifier mon nom, et pour faire plier un peuple raide de coups et contredisant opposants, par la honte qui viendra finalement de leurs actes brutaux contre les agneaux et les colombes de Dieu. Pour que vous lisiez au sujet de son peuple, comme le Seigneur l'a dit, un témoignage plus clair et plus céleste consigné, que mes serviteurs ne l'ont fait auparavant, et cela demeurera à travers les âges et dans les générations à venir, afin qu'on voit comment Dieu s'est manifesté à son peuple en un jour de grande souffrance. De la parole du Seigneur au-dedans, nous devons beaucoup aux premiers Quakers. La réponse de Christ à ses disciples, lorsqu'il voulait punir les gens qui ne voulaient pas l'écouter, fut de les réprimander sévèrement en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, c'est l'esprit de Satan qui punit son prochain au sujet de la religion. Les persécutions furent annoncées dans l'Apocalypse par la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints, qui chevauchait sur le dos de la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau, aux nombreux noms protestants et catholiques, imitant l'Église du Christ. Voir Babylone et apostasie pour plus d'informations. France à Londres, souffrance en Angleterre, en dehors de Londres, souffrance en Amérique, y compris de nombreuses femmes, procès injuste de William Penn, William Mead, ainsi que John Cook et Francis Raugle tirés du journal de George Fox décrivant certains de ses emprisonnements, totalisant 6 ans et demi, les assises, session du tribunal itinérant étaient terminées, et nous avons compris qu'il était peu probable que nous soyons libérés de prison de sitôt, nous avons donc cessé de donner au geôlier 7 shillings par semaine. Cela le rendit très méchant et diabolique, et il nous fit descendre à Domsdale, un endroit infect puant, où l'on avait l'habitude de mettre les sorcières et les meurtriers après qu'ils avaient été condamnés à mourir. L'endroit était si malsain qu'on savait que peu en ressortaient à nouveau en bonne santé. Il n'y avait pas de lieu d'aisance, latrine, et les excréments des prisonniers, qui y avaient été mis de temps à autre, n'avaient pas été évacués, nous a-t-on dit, depuis de nombreuses années. Ainsi tout était comme une boue, et par endroits, l'eau et l'urine montaient jusqu'au-dessus des chaussures, et il ne voulut pas nous laisser nettoyer, ni nous permettre d'avoir des lits ou de la paille pour nous coucher. La nuit, des gens bienveillants de la ville nous apportèrent une chandelle et un peu de paille, et nous allâmes brûler un peu de notre paille pour enlever la puanteur. Les voleurs occupaient l'étage au-dessus de nous, et la chambre du chef geôlier était aussi au-dessus de nous. Il semble que la fumée monta dans la pièce où le geôlier était couché, ce qui le mit dans une telle rage qu'il prit les pots d'excréments des voleurs et les versa par un trou sur nos têtes à Domsdale, jusqu'à ce que nous soyons tellement éclaboussés que nous ne pouvions nous toucher nous-mêmes ni nous toucher les uns les autres. Et la puanteur s'accrut sur nous, de sorte qu'entre la puanteur et la fumée, nous étions presque étouffés et suffoqués. Nous avions la puanteur sous nos pieds auparavant, maintenant nous l'avions aussi sur nos têtes et sur nos dos, et lui, ayant éteint notre paille avec l'ordure qu'il avait versée, avait fait une grande fumée étouffante dans l'endroit. De plus, il nous injuriait de la manière la plus hideuse, nous appelant des chiens à face de hache, et d'autres noms étranges que nous n'avions jamais entendus. De cette façon, nous fûmes forcés de rester debout toute la nuit, car nous ne pouvions pas nous asseoir, l'endroit était si plein d'excréments immondes. Longtemps il nous maintint dans cet état avant de nous laisser le nettoyer, ou de permettre qu'on nous apporte de la nourriture, autre que ce que nous recevions à travers la grille de la fenêtre. Une fois, une fille nous apporta un peu à manger, et il l'arrêta pour effraction chez lui, et la poursuivit devant le tribunal de la ville pour effraction dans la prison. Il causa beaucoup d'ennuis à la jeune femme. Dès lors, les autres furent si découragés que nous eûmes beaucoup de difficultés à obtenir de l'eau, à boire ou à manger. Et davantage, tiré de son journal, sur les emprisonnements de Fox après quelques autres entretiens, ils me renvoyèrent de nouveau en prison, pour y rester jusqu'aux prochaines assises, et le colonel Kirby donna des ordres au geôlier, de me garder strictement et de ne laisser venir à moi aucun être vivant, car je n'étais pas apte, disait-il, à converser avec des hommes. On me mit dans une tour, où la fumée des autres prisonniers montait si épaisse qu'elle se déposait comme de la rosée sur les murs, et parfois elle était si dense que je pouvais à peine voir la chandelle lorsqu'elle brûlait. J'étais enfermé sous 3 serrures, et lorsque la fumée était forte, le sous-geôlier pouvait à peine être convaincu de monter pour ouvrir l'une des portes les plus hautes, car il craignait la fumée, si bien que j'étais presque étouffé. De plus, la pluie tombait sur mon lit, et bien des fois, lorsque j'allais essayer d'empêcher la pluie d'entrer durant la froide saison d'hiver, ma chemise devenait aussi mouillée que de la boue sous la pluie qui tombait sur moi pendant que je m'efforçais de l'empêcher d'entrer. Et comme l'endroit était haut et exposé au vent, parfois, aussitôt que je bouchais le trou, le vent le faisait sauter de nouveau. C'est ainsi que je restais tout ce long hiver froid jusqu'aux prochaines assises. Durant ce temps, j'étais tellement exténué par le froid et la pluie que mon corps enfla beaucoup et que mes membres s'engourdirent fortement. Et un exemple, parmi beaucoup de Fox attaqués, tiré de son journal le dimanche suivant, j'allais à Tickhill, où les amis de ce côté se rassemblèrent, et il y eut parmi les gens une grande brisure de cœur par la puissance de Dieu. Je sortis de la réunion, étant poussé par Dieu à aller à l'église. Quand j'y arrivai, je trouvai le prêtre et la plupart des principaux gens de la paroisse réunis dans le chœur. Je m'approchai d'eux et commençai à parler, mais ils se jetèrent immédiatement sur moi. Le clerc leva sa Bible pendant que je parlais et me frappa au visage avec, si bien que mon visage se mit à saigner, et je saignai abondamment dans l'église. Les gens criaient, qu'on le fasse sortir de l'église. Lorsqu'ils m'eurent fait sortir, ils me battirent extrêmement, me jetèrent à terre et me passèrent par-dessus une haie. Ensuite, ils me traînèrent à travers une maison jusque dans la rue, me lapidant et me frappant pendant qu'ils me tiraient, si bien que j'étais couvert de sang et de saleté. Tiré du témoignage d'Edward Burroughs, fait ministre par Christ à 18 ans et mort en prison à 28 ans, tous les prêtres et les dirigeants étaient en effervescence à propos de notre foi. Elle menaçait leurs fausses croyances. Les prêtres présentèrent des pétitions aux magistrats, coururent de session en session et de juridiction en juridiction, prêtèrent des serments impies et calomnièrent les justes par des mensonges et des reproches, dans le but d'exciter tout le monde contre nous. Et les magistrats émirent des mandats pour l'arrestation de certains, donnèrent l'ordre de disperser nos réunions, et que nous ne nous réunissions pas la nuit, et que tels hommes ne voyagent pas, et une telle agitation et opposition furent menées contre nous qu'on peut à peine l'exprimer ou la décrire. Il y eut des émeutes dans les églises et des émeutes sur les marchés, et souvent des comparutions forcées devant les magistrats. Nous fûmes maltraités, menacés, calomniés, et l'on fit et dit contre nous toutes sortes de maux, et de grandes injustices, cruautés et oppressions furent exercées envers nous partout où nous allions, et tout cela par le moyen des prêtres, qui ne s'épargnaient pas pour tramer et concevoir du mal contre nous, et sollicitaient chaque jour les magistrats pour la persécution, prêchant de leur chair et priant contre nous, et fixant des jours à pas. Nous fûmes souvent exposés à des voyages et des trajets difficiles et pénibles, nous donnant à la croix pour la prendre contre tout ce qui était terrestre, buvant souvent de l'eau et couchant sur de la paille dans des granges, après une dure journée de marche. Et pourtant, malgré tout cela, la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, et nous avancions avec beaucoup d'audace et de fidélité, avec courage, sans peur ni doute, malgré les risques fréquents pour nos vies de bien des manières, dans les émeutes par des hommes mauvais et sur les marchés. Et c'est ainsi qu'il en alla pour nous, et beaucoup plus pourrait être dit, mais ceci est brièvement déclaré pour montrer comment nous avons été traités par les prêtres, les dirigeants et le peuple, dans tous les comtés du nord de l'Angleterre, lors de notre première sortie, à travers lesquels comtés nous voyageâmes d'abord hors du Westmoreland, à travers le Cumberland, le Northumberland, et juste dans certaines parties de l'Écosse, Durham, le Yorkshire, le Lancashire, le Cheshire, etc. Dans tous ces comtés, nous eûmes beaucoup d'opposition, des souffrances extrêmes et des traitements cruels de la part d'hommes de toutes sortes. Chaque prison peut témoigner, dans chaque comté, que rarement l'une d'elles a été sans quelques-uns de nous ou de nos amis emprisonnés en elle durant ces 6 années, et à peine une église ou un marché dans tous ces comtés qui ne puisse témoigner des coups, des contusions, des coups portés au corps, des traînements devant les tribunaux, des mauvais traitements et des périls que nous avons soufferts et endurés. Pas un prêtre dans tous ces comtés ne peut s'absoudre de la haine et de la malice, de l'envie contre nous, et des méfaits en parole et en acte, ou en pensée ou en désir contre nous. Ni guère un juge de paix, ni aucun officier de la paix, ne peut être excusé dans tous ces comtés d'avoir comploté et commis des injustices contre nous, et d'avoir menacé et exercé des cruautés contre nous. J'en appelle au ciel et à la terre pour témoignage, et à la lumière dans la conscience de chaque homme, et je fais appel à ceux-là en toutes sortes de gens, que de toutes sortes nous avons souffert de le mal, des paroles et des actes injustes. Que le témoin de Dieu, dans les consciences de tous les hommes, dans tout le nord de l'Angleterre, rende témoignage des traitements, et de la cruauté que nous avons souffert, de la manière dont nous avons été traités, et aussi de notre patience et de notre innocence sous tout ce qu'ils ont fait contre nous. Mais nonobstant tout ce qui fut fait et dit contre nous, plusieurs centaines de gens honnêtes et sobres nous reconnurent, et aussi beaucoup de personnes grossières et impies furent converties à la vérité. Je dis, plusieurs centaines dans tous ces comtés, en 2 ans, furent amenées à la connaissance du Seigneur et à nous reconnaître. Pendant tout ce temps, nous avons travaillé et voyagé avec patience, nous livrant à vivre ou à mourir, et à toutes sortes de souffrances, d'opprobres et de dures épreuves, afin d'accomplir fidèlement ce à quoi nous étions appelés. Souffrance au dehors, de la part d'ennemis déclarés et de nos propres proches et relations, et souffrance au dedans, à cause de la semence, tout cela nous rendit bien familiers avec les douleurs. Pourtant, dans nos épreuves et afflictions, le Seigneur ne nous abandonna jamais, mais sa sagesse, son amour, sa vie et sa présence augmentèrent en nous et avec nous. Du journal de Fox encore, le lendemain matin, je traversai vers l'île de Walney en bateau pour aller chez James Lancaster. Dès que je mis pied à terre, environ 40 hommes se ruèrent dehors, avec des bâtons, des gourdins et des cannes à pêche. Ils se jetèrent sur moi, me frappant et me donnant des coups de poing, et cherchant à me repousser en arrière dans la mer. Lorsqu'ils m'eurent presque poussé dans la mer, et que je vis qu'ils m'y auraient assommé, j'entrai au milieu d'eux, mais ils m'attaquèrent de nouveau, me jetèrent à terre et m'assommèrent. Quand je revins à moi, je levai les yeux, et vis la femme de James Lancaster me jeter des pierres au visage, et son mari était étendu sur moi pour me préserver des coups et des pierres. Car les gens avaient persuadé la femme de James que j'avais ensorcelé son mari, et ils lui avaient promis que si elle leur faisait savoir quand je viendrais, ils me tueraient, et ayant appris ma venue, beaucoup de gens de la ville se levèrent de cette manière, avec des gourdins et des bâtons pour me tuer, mais la puissance du Seigneur me préserva, de sorte qu'ils ne purent m'ôter la vie. Enfin je me relevai, mais ils me frappèrent de nouveau et me firent tomber dans le bateau. Ce que voyant James Lancaster, il entra aussitôt dans le bateau auprès de moi et me fit traverser l'eau pour m'éloigner d'eux. Mais tandis que nous étions sur l'eau, à leur portée, ils nous frappaient de longues perches et nous jetaient des pierres. Lorsque nous fûmes arrivés de l'autre côté, nous les vîmes battre James Naylor, car tandis qu'il me battait, il était entré dans un champ, et il ne s'était pas soucié de lui jusqu'à ce que je sois parti. Alors ils se jetèrent sur lui, et tous criaient « Tuez-le, tuez-le !» Lorsque je fus revenu en ville de l'autre côté de l'eau, les habitants se soulevèrent avec des fourches, des fléaux et des bâtons pour m'empêcher d'entrer dans la ville, criant « Tuez-le, assommez-le, apportez la charrette et emportez-le au cimetière !» Après m'avoir maltraité, ils me chassèrent assez loin hors de la ville et m'y laissèrent. Alors James Lancaster retourna pour s'occuper de James Naylor, et moi, maintenant laissé seul, j'allai à un fossé, et m'étant lavé, je marchai environ 3 miles jusqu'à chez Thomas Hutton, où logeait Thomas Lawson, le prêtre qui avait été convaincu. Lorsque j'entrai, j'étais si meurtri que je pouvais à peine leur parler, mais je leur dis où j'avais laissé James Naylor. Sur quoi chacun prit un cheval, et ils allèrent le ramener là cette nuit-là. Le lendemain, Margaret Fell, l'ayant appris, envoya un cheval pour moi, mais j'étais si douloureuse à cause des contusions que je ne pouvais supporter les secousses du cheval sans grande douleur. Quand j'arrivai à Swarthmore, le juge Sorry et le juge Thompson, de Lancaster, délivrèrent un mandat contre moi, mais comme le juge Fell était rentré chez lui, il ne fut pas exécuté contre moi, car il avait été hors du pays tout le temps que j'avais été si cruellement maltraité. Lorsqu'il rentra, il envoya des mandats dans l'île de Walney pour arrêter toutes ces personnes tumultueuses, alors certains d'entre eux prirent la fuite et quittèrent le pays. La femme de James Lancaster fut ensuite convaincue de la vérité et se repentit du mal qu'elle m'avait fait, et quelques autres de ses persécuteurs amés aussi. Mais les jugements de Dieu tombèrent sur certains, et depuis, la destruction est venue sur beaucoup d'entre eux. Le juge Fell désirait que je lui fasse un récit de ma persécution, mais je lui dis qu'il ne pouvait pas faire autrement dans l'esprit qui était le leur, et qu'ils manifestaient les fruits du ministère de leurs prêtres, et que leur profession et leur religion étaient fausses. Alors il dit à sa femme que je n'en faisais pas grand cas, et que j'en parlais comme un homme qui n'avait pas été concerné, car en vérité la puissance du Seigneur me guérit de nouveau. Tiré de l'admirable ouvrage de William Penn intitulé « En Address tout protestant Penn décrit ainsi les persécutions », des milliers ont été excommuniés et emprisonnés, des familles entières ruinées, pas un lit laissé dans la maison ni une vache dans le champ, ni aucun grain dans la grange, veuves et orphelins dépouillés sans pitié, sans égard à l'âge ou au sexe. Et pourquoi ? Uniquement parce qu'ils se réunissent pour adorer Dieu d'une autre manière que selon la forme de l'Église d'Angleterre, et pourtant d'une façon très paisible. Et bien que nous ne soyons pas encore rétablis dans nos droits, il ne s'est pas écoulé une session du Parlement depuis ces 17 ans où nous n'ayons humblement fait remontrance, exposé notre cause. Tiré de la collection of the Sufferings of the People Called Quakers, Joseph Bess, page 565. L'extrait suivant décrit comment les étudiants en théologie à Oxford traitaient les Quakers qui s'y réunissaient. Ce sont des passages tirés d'un récit imprimé, signé par Jeremiah Haywood, Abraham Allen, Thomas Rilland, Henry Train, Lawrence Willier, Thomas Swan, Alexander Green et Abraham Badger, témoins oculaires et participants au traitement barbare que les Quakers, lors de leur réunion à Oxford, subissaient habituellement de la part des étudiants. Ils entrèrent dans une réunion et tirèrent un ami par les cheveux. Le proviseur-chef du collège lui-même tira John Shackerley par les cheveux et le fit sortir de la maison de Richard Betry et expulsa violemment d'autres personnes. À plusieurs reprises, les étudiants jetèrent des pierres et de la boue sur les amis, brisèrent la porte en morceaux, cassèrent les fenêtres plusieurs fois, emportèrent la clé de la porte, bourrèrent la serrure, arrachèrent une partie du porche. Quand les amis entraient dans la réunion ou en sortaient, les étudiants les serraient dans le passage de la porte, au point que certains furent blessés. Ils entrèrent dans la réunion, renversèrent les bancs et les sièges sur lesquels les amis étaient assis, et montèrent sur le dos des hommes comme des femmes, comme des chevaux sauvages. Tels sont les fruits de ces étudiants, qu'on appelle jeunes ministres à Oxford, contre le peuple de Dieu, troublant quotidiennement leurs réunions comme des sauvages. Ils apportèrent de la poudre à canon et des pétards, les firent exploser, enfumèrent la pièce, en soufflèrent sous les vêtements des gens, comme pour mettre le feu à la maison et ruiner les gens. Et ils tirèrent des balles parmi les amis pour leur crever les yeux. Ils tapaient du pied follement et grossièrement comme des habitués de taverne, criant « Donnez-nous de la bière et du tabac ». Les étudiants sont venus dans les réunions parmi le peuple de Dieu et ont réclamé des filles ou des prostituées, comme des hommes qui fréquentent les maisons closes. Ils ont apporté de la bière forte dans les réunions et ont trinqué avec les amis, et parce qu'ils refusaient de boire, ils la leur ont jeté sur le cou, les vêtements et les mains. Ils ont chanté des chansons obscènes et blasphémé et juré. À plusieurs reprises, ils sont venus aux réunions en soufflant et en aspirant avec des pipes à tabac dans la bouche, jurant, blasphémant et tapant du pied, faisant de nouveau trembler la maison. Et ils ont tenté de passer les mains sous les tabliers des femmes et demandaient si l'esprit n'était pas là. Les étudiants sont venus à la réunion pour jouer Toby et son chien, et l'un d'eux a divisé sa saleté en « usage » et « point », à la manière des prêtres, un autre a établi des doctrines d'un rétameur et d'un cordonnier, et bien d'autres actions mauvaises par des moqueries, des railleries et un langage ordurier. Ces étudiants ont été si hontés qu'après la réunion ils se sont introduits de force, ont volé de la viande sur la table, entrant dans la maison de l'ami où se tenait la réunion, prenant le pain et le potage dans la marmite, comme des chiens voraces, les lapins, ils ont aussi volé et emporté des livres de la maison et les ont emportés. Lorsqu'un des serviteurs du Seigneur allait d'une réunion à sa demeure, en passant près de John's College, une grande troupe d'étudiants l'attira dans le collège, le força à monter dans leur salle, et à force de bras et avec beaucoup de violence, le poussa dans une chaise. Puis ils usèrent de paroles abominables et mauvaises pour détourner l'esprit de l'ami de la crainte du Seigneur, mais ne pouvant y parvenir, ils apportèrent de la bière et comme des bêtes baveuses et des pourceaux, se mirent à la lui verser dans le cou, et le frappèrent et le battirent. Je suis là de transcrire leurs abominations, et je m'arrêterai à cette remarque qui, si sévère qu'elle puisse paraître, est naturelle et juste. Si ces étudiants avaient été expressément éduqués là comme ministres du diable, ils n'auraient pas pu donner des preuves plus certaines de leur progrès. Au cas où vous penseriez qu'il s'agissait d'un incident isolé, voici ci-dessous une lettre décrivant des événements semblables à Cambridge, tirée des lettres de Stephen Crisp. Après la restauration du roi Charlie, une lettre lui fut présentée, signée par 29 personnes qui avaient souffert lors d'une réunion à Cambridge le 2 jour du 5e mois 1660. Cette lettre, donnant une juste idée de la continuité de la persécution en ce lieu, et de la franchie et simplicité chrétienne du style d'adresse qu'il employait alors envers les personnes détenant la plus haute autorité, est la suivante. Au roi Charlie, nous ne sommes pas un peuple prompt à se plaindre sans grande cause, ni en a. Mais les choses qui nous sont arrivées récemment à Cambridge, étant tout à fait contraires à vos déclarations de liberté et de protection envers ceux qui se soumettent à votre gouvernement et vivent en paix, et portant grandement atteint à l'honneur de votre engagement royal pris envers nous en particulier, votre autorité étant prétextée pour les plus honteux méfaits et les plus grandes insolences, par quoi vous pouvez être abusé tout autant que nous, comme déclarant une chose et en voulant une autre, et beaucoup de mal peut s'en suivre si de telles choses sont permises. C'est pourquoi nous ne voudrions pas le cacher au roi, afin qu'un remède puisse être apporté contre de tels présomptueux contrevenants, ou du moins que l'on empêche à l'avenir des faits semblables, afin que les jugements de Dieu puissent si possible être détournés, eux qui sont prêts à tomber sur cette nation astérisque sans prompte repentance et réforme, pour le tort fait à ses enfants et serviteurs, et que vous soyez préservés au mauvais jour de la colère de l'agneau, qui fait la guerre aux nations et prononce son effroyable jugement et sa sentence. Astérisque, et ainsi les jugements de Dieu tombèrent plus tard sur l'Angleterre, la grande peste de Londres de 1655, le grand incendie de Londres de 1666, et la perte des guerres hollandaises de 1665-67. Il vous soit connu, ô roi, que le 2 jour du 5e mois, tandis que nous nous rassemblions pour une réunion générale au lieu habituel, qui était notre propre maison louée, une foule tumultueuse d'étudiants, de femmes débauchées, d'habitants de la ville et de garçons se rassembla aussi autour du lieu de réunion comme les hommes de Sodome, non comptant des précédentes injures, insolences et indignités, commises et proférées envers les disciples de l'agneau environ un mois auparavant, et n'ayant ni honte ni crainte de refaire les mêmes choses. C'était préparé par excès de boissons, afin d'oublier toute humanité et de ne montrer aucune miséricorde. Ils ne laissèrent passer personne sans quelque mauvais traitement, nous arrêtant et nous poussant d'un côté et de l'autre, jetant certains à terre, ou jetant de la boue ou des immondices sur leurs vêtements ou sur leur visage, et frappant aussi certains pour les faire reculer, ne leur permettant pas d'entrer à la réunion, mêlant beaucoup de moqueries, d'injures et de menaces au reste de leurs sévices, et ne s'arrêtant pas là, ils se jetèrent sur nous. Et bien que ceux qui entrèrent dans la maison nous battissent avec tant de cruauté, leur garde extérieure ne voulut pas nous laisser passer avant d'avoir aussi satisfait leurs esprits sanguinaires en nous battant de nouveau, si bien qu'un grand nombre d'entre nous furent grièvement blessés et meurtris. 22 eurent le sang versé, l'un fut si estropié qu'on le laissa derrière, incapable de marcher dehors, et une femme fut presque tuée par leur cruauté. En outre, certains d'entre nous perdirent leur chapeau, et beaucoup eurent leurs vêtements déchirés, et furent grandement éclaboussés et maculés. Et pourtant, nos persécuteurs ne furent pas satisfaits de tout cela. Lorsqu'ils nous eurent chassés de la maison et eurent nettoyé les rues de notre présence, ils revinrent et démolirent complètement le reste des murs et des baies de chaque côté de la maison de réunion, près de deux entrées, l'ouvrant ainsi entièrement sur la rue. Puis ils cherchèrent et nous traquèrent de nouveau dans la maison de réunion, et ceux sur qui ils mirent la main furent fortement maltraités. Ils nous attaquèrent aussi dans la maison de l'échevin où certains d'entre nous logeaient. Ils battirent l'homme de la maison sur le pas de sa porte et ne partirent pas tant qu'il fit jour. Nous dont les noms sont ci-dessous souscrits avons souffert, et nous attestons que ces choses ci-dessus écrites sont vraies. John Moon, William Pepe, John Inslow, John Parker, John Webb, Daniel Ward, George Clark, John Forster, Henry Marshall, John Adams, Jeremy Hearn, Stephen Crisp, Greg Whittingy, Daniel Wallis, Benjamin Lin, William Turney, Gilles Fichet, William Witham, Philip Williamson, Jeremy Wood, Josiah Cole, John Ostley, William Wobey, Stephen Hart, Thomas Harry, Thomas Penn, James Allen, John Pollard, Thomas Roos. La raison de ces émeutes d'étudiants en théologie n'est pas difficile à comprendre. Premièrement, ceux qui sont nés selon la chair persécuteront toujours ceux qui sont nés selon l'esprit. C'est ainsi depuis que Caïn a tué Abel. Deuxièmement, les Quakers niaient l'existence de ministres formés par les universités, au lieu d'être formés par Christ. Troisièmement, et surtout, les Quakers vidaient les églises dans toute l'Angleterre de leurs membres payants, menaçant sérieusement les chances de ces étudiants de la Bible de trouver un revenu paroissial lucratif provenant de la dîme forcée, soutenue par les tribunaux. Suivez l'argent. Quatrièmement, les étudiants en théologie savaient que les Quakers ne riposteraient pas, et les responsables de leur établissement haïssaient les Quakers, ils pensaient donc qu'il n'y aurait aucune conséquence à leur comportement scandaleux, tiré de l'histoire de Soul, vol. I. Les premiers Quakers arrivés à Oxford étaient deux femmes, Elizabeth Raven et Elizabeth Fletcher, toutes deux du Nord. C'était en juin 1654. Ces deux femmes parlèrent dans les rues au peuple et, au collège, elles exhortèrent les étudiants en théologie, ceux-ci récompensant méchamment leur zèle, poussèrent violemment Elizabeth Fletcher contre une pierre tombale, puis la jetèrent dans la tombe, et leur malice s'accrut au point qu'ils attachèrent ces deux femmes l'une à l'autre et les conduisirent sous la pompe. Après les avoir abondamment trempées à coups de pompe, ils les jetèrent dans un fossé boueux, à travers lequel ils traînèrent Elizabeth Fletcher, qui était une jeune femme, et la maltraitèrent si cruellement qu'elle demeura dans un état douloureux jusqu'à sa mort, qui survint peu après. Ainsi, les étudiants en théologie montrèrent qu'ils n'étaient pas dignes d'être appelés chrétiens, encore moins de se présenter comme ministres du Christ. En fait, leur formation universitaire ne les qualifie qu'à devenir des ministres de Satan à Babylone, se faisant passer pour appartenir à Christ, mais seulement comme des tombeaux blanchis pleins d'ossements de mort, suivant fidèlement les traces de leurs pères, les pharisiens qui assassinèrent Christ. Les collèges bibliques ne produisent que des hypocrites, ceux qui se font payer pour parler de religion, tout en vivant dans le péché, enflés de leur connaissance charnelle des mots de la Bible, et sans honte de ne pas obéir aux paroles dont ils prétendent être des experts. Les ministres formés dans les collèges prétendent être des ministres du Christ, alors que Christ ne les a jamais appelés, ne les a jamais formés, ne les a jamais rendus parfaits, ne les a jamais autorisés, et ne leur a jamais donné le don du ministère, dont le seul but de tout ministère est censé être le perfectionnement des saints. F 4.11 Les ministres de Satan nieront que la perfection soit même possible en ignorant les Écritures. Frapper des hommes et des femmes désarmés, qui par principe ne peuvent pas riposter, est un acte de lâcheté diabolique. Tiré du journal de George Fox, une autre fois, alors que je marchais dans un champ un dimanche matin, le Seigneur ouvrit en moi cette compréhension, qu'avoir été éduqué à Oxford ou à Cambridge ne suffisait pas à rendre les hommes aptes et qualifiés pour être ministres du Christ, et cela stimula ma réflexion, car c'était l'opinion commune des gens. Mais je le vis clairement lorsque le Seigneur me l'ouvrit, et je fus convaincu de sa vérité. J'admirai la bonté du Seigneur qui m'avait ouvert cette compréhension ce matin-là. Ainsi, ce qui s'ouvrit en moi, je vis que cela frappait le ministère des prêtres. Tiré de Christian Progress de George Whitehead, décrivant les horreurs de l'un de ses nombreux emprisonnements, nous étions alors installés dans le quartier commun parmi des criminels, dans un lieu bas ressemblant à un cachot, sous une halle de marché, notre couche étant de paille de seigle, sur un sol de terre humide. Nous nous en contentions, et le lieu nous était sanctifié. Mais comme nous ne voulions pas contribuer à l'extorsion du geôlier, ni ne consentions à acheter aucune de ses bières, lui tenant un débit, et beaucoup de ses prisonniers étant souvent ivres, sa rage s'éleva fortement contre nous, après que nous eûmes été jusqu'à 5 envoyés en prison successivement, tous dans le quartier commun, et pendant toute notre détention ne buvant que de l'eau. Ce qui le mettait le plus en fureur contre nous, c'était que nous rendions fréquemment témoignage et dénoncions les péchés immondes et horribles de l'ivrognerie, du blasphème et d'autres désordres, et abus parmi les prisonniers, que les serviteurs du geôlier favorisaient en permettant leur consommation excessive de bière forte, pour son gain financier impie provenant de la vente de boissons. Mais le Seigneur nous poussa d'autant plus vivement à crier à haute voix contre la méchanceté du geôlier, de ses serviteurs et des prisonniers, à cause de ses grossiers mots et désordres, car le geôlier faisait profession de religion et de piété, étant membre d'une église presbytérienne à Bailey, et faisant venir les prisonniers, le premier jour de la semaine vers le soir, pour les instruire et exercer parmi eux sa sorte de dévotion. Parce que je lui parlais de son hypocrisie en cela, ses fruits étant si fort contraires, sa fille s'en offensa, disant : « Quoi, traiter mon père d'hypocrite, lui qui est saint depuis 40 ans? Or, pour donner quelques preuves de ses fruits, et du traitement que lui et ses agents nous faisaient subir, observez ce qui suit. Le 21 jour du 10e mois 1655, le geôlier frappa George Roe au visage jusqu'à faire couler le sang. Et le 28, il frappa George Fox astérisque et John Ranwood au visage devant plusieurs témoins. Le 21e du 11e mois, il frappa George Whitehead au visage jusqu'à ce que le sang lui sortît par la bouche, uniquement parce qu'il reprenait et dévoilait certains mensonges qu'il avait proférés contre nous, ce que quelques présents entendirent. À ce moment-là, une femme de sa propre société ou profession, voyant sa fureur et sa violence, lui dit qu'il déshonorait l'Évangile. Il semble qu'elle fût plus tendre et plus consciencieuse que lui. Astérisque, ce n'était pas George Fox, le fondateur des Quakers, mais plutôt un homme plus jeune portant le même nom, appelé George Fox le Jeune. Bien d'autres fois, il nous maltraita honteusement, tant par les paroles que par les actes, ce qui encouragea davantage ses serviteurs, le débitant et le guichetier, ainsi que quelques-uns de ses prisonniers ivres, à suivre son exemple, car son débitant astérisque nous injuria souvent grossièrement, et non seulement nous menaça, mais lança violemment une pierre, dont il en frappa un, et dans sa rage, il prit un tabouret pour en frapper ou le jeter sur certains d'entre nous, mais en fut empêché par une personne présente qui s'en saisit. Il nous calomnia souvent, et en frappa certains au visage, et nous frappa aussi violemment de ses poings, sans autre cause que de reprendre sa méchanceté et la leur. Astérisque, le débitant, était la personne qui vendait et servait la bière aux prisonniers. Certains prisonniers aussi nous ont souvent maltraités, en nous enlevant notre nourriture, alléguant que le geôlier leur en avait donné la permission, et se servant de là pour nous faire du tort. Plusieurs fois, ils battirent certains d'entre nous, nous lapidèrent, nous traitèrent avec mépris, menacèrent de nous tuer et d'assommer certains d'entre nous. L'un disait que s'il nous tuait, il ne serait pas pendu pour cela, et qu'il n'y avait aucune loi pour nous si jamais il nous tuait. Et ivre de la bière forte du geôlier, il donna des coups de pied et blessa certains d'entre nous aux jambes, et nous maltraita grandement, sachant qu'il était contraire à notre principe et à notre pratique de nous battre ou de rendre les coups. Ce que nous aurions aisément pu lui faire, ainsi qu'au reste des ivrognes du geôlier qui nous maltraitaient, si notre principe l'avait permis, étant 5 d'entre nous, pour la plupart des jeunes. Mais nous estimions qu'il y avait plus de courage et plus de christianisme à souffrir patiemment de telles injures pour le Christ qu'à combattre pour lui, ou à nous venger, et plutôt, lorsqu'on nous frappait sur une joue, à tendre l'autre qu'à frapper de nouveau. Le prisonnier ivre qui nous avait ainsi maltraités, lorsqu'il fut un peu sobre, avoua que le geôlier le rendait pire qu'il ne l'aurait été contre nous. Mais par un tel traitement inhumain, le geôlier ne put forcer notre soumission à ses desseins cupides, ni à ses pratiques corrompues pour le gain. Le 19 jour du 2e mois 1656, il entra dans le quartier commun et demanda si nous voulions le payer pour nous garder ici. Nous lui demandâmes ce que nous lui devions. Il dit 14 pences par semaine, chacun de vous, bien que certains d'entre nous eussent passé 31 semaines dans cette prison commune, et qu'aucun de nous ne couchât alors dans de la literie lui appartenant, mais quand on nous apporta un peu de paille pour nous coucher, ce qui était accordé par le comté pour l'usage des prisonniers, nous payâmes son transport, faute de quoi nous ne l'aurions pas eu. Nous dîmes au geôlier que, lorsque nous avions demandé une prison libre, il nous avait jetés dans ce lieu, sur quoi il ordonna aux guichetiers d'enlever nos couvertures, disant « enlevez-leur leurs couvertures, et ne leur laissez rien que la paille pour se coucher, et enlevez leurs coffres ». Ainsi le guichetier et le débitant emportèrent tout, et ne nous laissèrent pas même notre bonnet de nuit, qui était suspendu dans un panier au mur. De plus, le geôlier menaça de nous enlever nos manteaux de nos épaules. Nous lui dîmes qu'il pouvait le faire s'il le voulait, car il pouvait tout aussi bien les prendre que nos autres biens, à savoir nos couvertures, une veste et un manteau, et nos coffres, où se trouvait notre nourriture, c'est-à-dire du pain et du fromage, du linge et d'autres choses. « Alors, dit-il, je ne vous prendrai pas vos manteaux avant le temps plus chaud. » Nous lui dîmes qu'il ferait honte à sa profession. Il répondit, « Cela n'a pas d'importance, vous êtes tous des hérétiques. » Après que les biens susdits eurent été enlevés, la fille du geôlier dit, « Ils vous ont tout volé. » Ces biens nous furent retenus environ 24 semaines, durant lesquelles nous fûmes contraints de coucher en partie dans nos vêtements sur la paille. Toutefois le Seigneur nous donna patience et consolation dans nos souffrances, comme il le fit à ses serviteurs d'autrefois, qui endurèrent avec joie la confiscation de leurs biens, étant aussi rendus disposés non seulement à souffrir un tel dépouillement, mais à donner nos vies pour l'amour du Christ, gloire à son nom à jamais, lui qui nous soutint et nous consola ainsi dans nos tribulations. Le 28, Mary Patch, une honnête et pauvre amie, employée à nous apporter des choses nécessaires, vint à la prison avec du linge pour nous, à savoir 2 chemises, 2 bonnets, 2 collerettes et 4 mouchoirs. On nous avait déjà volé le reste auparavant. Le geôlier prit tout ce qu'elle avait et ne lui permit pas de nous les remettre. Le même jour, le guichetier enleva la veste de George Rose, qu'il portait d'ordinaire, à d'autres moments, Il ne permettait pas qu'on nous livrât nos provisions avant d'avoir arrêté la femme qui les apportait et fouillé dans son panier pour voir ce qu'elle nous avait apporté. Comme nous ne consentions pas à prendre un logement chez le geôlier, à 2 S, 4 D * par semaine chacun, ni à lui payer 1 S, 2 D. Chacun somme qu'il réclamait pour le temps que nous avions passé dans la prison libre, le quartier commun, il proposa de nous accorder quelques privilèges si nous nous soumettions à ces conditions. Ce que nous refusâmes, et sa colère continua néanmoins contre nous, au point que le 3 jour du 3e mois, il ordonna à son débitant d'enlever le chapeau de George Fox, que le débitant lui retira de la tête, mais le même jour, la femme du geôlier plus compatissante que son mari, lui rapporta son chapeau et dit qu'elle ne savait. Avant 1971, la livre, dérivée du mot latin libra, était divisée en 20 shillings, chaque shilling valant 12 pence, soit un total de 240 pence pour une livre. Le symbole du shilling était S non pas d'après la première lettre du mot, mais d'après le mot latin solidu. Le symbole du peigne était D, tiré du mot français denier, lui-même issu du latin denarius. Le solidu et le denarius étaient des pièces romaines. À cette époque, un peigne permettait d'acheter un pain. Il existait aussi des pièces de demi-peigne et de quart de peigne, farthings. Après avoir donné de tels exemples de malveillance et de mauvais traitement à notre égard, certains prisonniers, lorsqu'ils étaient presque ivres, furent encore encouragés à renouveler leur violence contre nous, surtout l'un d'eux, qui était souvent le plus vil et le plus injurieux, nous battant et nous donnant des coups de pied, et frappant certains d'entre nous au visage, sans être repris par le guichetier ni le débitant, alors même qu'il était présent et savait que nous étions maltraités, mais au lieu de cela, le débitant frappa alors lui aussi l'un. Mais le 19 du 3e mois, deux prisonniers frappèrent George Fox Jr. au visage avec une telle violence que le sang lui sortit par la bouche et le nez. Le 21 jour suivant, l'un d'eux cracha honteusement au visage de George Rose et de George Fox en les tirant par le nez, comme il nous l'avait fait plusieurs fois, et le 22 jour du même mois, tandis que George Fox se tenait à la porte intérieure, un pot de charbon et de cendre lui fut jeté au visage par l'un des prisonniers. Ainsi, jour après jour, pendant un temps, nous fûmes maltraités, battus, souffletés, frappés, poussés et traités avec mépris, sans autre motif que de témoigner contre l'ivrognerie fréquente, les jurons, la méchanceté et le mauvais gouvernement de cette prison, et de témoigner contre la tyrannie, la cruauté et le mauvais exemple du geôlier, de son guichetier et de son débitant. Il serait trop fastidieux d'énumérer tous leurs mauvais traitements, actes de violence et cruauté contre nous. Ils prirent conscience qu'ils pouvaient être exposés. Par crainte d'être démasqués, le guichetier menaça de nous enlever notre matériel d'écriture et en enleva effectivement une partie, avec plusieurs papiers, disant que nous n'écririons plus, surveillant souvent pour nous empêcher d'écrire. Après nous avoir souvent menacés de nous enfermer dans le quartier des femmes, une pièce basse et sale à cause de notre témoignage constant contre leur grossier désordre, et aussi contre le fait d'autoriser le débitant à donner aux prisonniers tant de boissons fortes qu'ils en buvaient à l'excès, et qu'ils se maltraitaient eux-mêmes et maltraitaient les autres, le geôlier, au lieu de réformer, persista à permettre sans droit de tels excès, et à nous punir pour notre juste témoignage. Le 26 jour du 3e mois, il fit mettre George Rose dans le quartier des femmes, sur quoi George Whitehead dit au geôlier de remarquer que c'était pour avoir dénoncé l'ivrognerie et les jurons, que lui-même tolérait qu'il le faisait mettre là. Pour ces paroles, le geôlier fit aussi bientôt enfermer George Whitehead dans le même quartier, de même George Fox Jr. et Henry Marshall, car nous ne faisions qu'un dans notre témoignage. Ainsi nous quatre y fûmes enfermés et confinés près de 2 heures, et lorsque nous demandâmes seulement un tabouret à nous pour nous asseoir, ils ne voulurent pas nous le permettre. Après nous avoir tous relâchés, ils remirent George Rose dans le même quartier, où ils le confinèrent environ 4 heures, et des pierres furent lancées par la fenêtre, dont certaines le frappèrent. Le débitant aussi prit de la boisson forte dans sa bouche et la lui cracha au visage lorsqu'il regardait par la fenêtre. Mais notre punition de la part du geôlier ne s'arrêta pas là. Tandis que George Rose était enfermé dans le quartier des femmes, le geôlier vint trouver George Whitehead et George Fox et dit « Si vous persuadez George Rose de se tenir tranquille, il pourra sortir. » George Whitehead lui dit qu'il ne le persuaderait pas de cesser de crier contre la méchanceté. Alors, dans sa rage, il menaça de nous mettre tous trois au cachot et fit sortir George Rose du quartier des femmes, menaçant de nous descendre au cachot avec une corde de charrette. Mais lui et le guichetier nous descendirent George Whitehead, George Fox Jr. et George Rose par une échelle dans le cachot, où ils ne mettent guère personne, sinon quelques individus très crêleurs et meurtriers, car il est à environ 4 yards sous terre, très sombre, et d'un espace fort réduit au fond. Au milieu s'y trouvait une grille de fer, dont les barreaux étaient espacés de plus d'un pied, et dessous se trouvait une fosse ou un trou, dont nous ne savions pas la profondeur. Mais nous en fûmes avertis par une femme qui nous vit descendre et eut pitié de nous. Aussi restâmes-nous près des parois du cachot afin de ne pas tomber dans la fosse. Là, nous fûmes retenus près de 4 heures, chantant les louanges du Seigneur notre Dieu, dans la douce jouissance et le vif sentiment de sa présence glorieuse, sans être le moins du monde effrayé ni abattu par leur cruauté, mais joyeusement résigné à la volonté du Seigneur à souffrir pour son nom et pour la vérité, s'il nous avait laissé périr dans ce cachot sombre, lugubre et puant, ce que le Seigneur ne permit pas. D'ailleurs, le geôlier pouvait craindre d'être pendu s'il nous avait retenus, et que nous fussions morts dans le cachot. Lorsque nous fûmes sortis du cachot, le guichetier nous enferma dans le quartier commun et laissa entrer un prisonnier malveillant qui frappa George Rose violemment à la tête, sans le reprendre pour cela, mais c'était une pratique courante parmi ses persécuteurs, surtout lorsqu'il était ivre. Pendant que nous étions au cachot, plusieurs de nos amis vinrent nous rendre visite de Norwich, Colchester, Halstead dans l'Essex et d'autres lieux, mais on ne leur permit pas de venir jusqu'à nous, et nous ne pûmes pas non plus leur parler. À d'autres moments, ils nous traitèrent de la même manière, nous et nos amis, lorsqu'ils avaient parcouru plusieurs milles pour nous voir. Lorsque nos amis étaient tenus à l'écart et qu'ils étaient venus à la porte ou à la fenêtre de la prison, certains de la compagnie du geôlier leur jetèrent de l'eau dessus, prétendant qu'il avait reçu l'ordre des juges qu'aucun de nos amis ne vînt à nous. Cependant, lui et sa femme leur dirent que, s'ils payaient le guichetier, ils pourraient venir nous voir. Le guichetier leur dit que, s'ils lui donnaient 6 dés, ou 4 dés, par personne, il les laisserait venir jusqu'à nous, mais ils refusèrent de satisfaire ainsi sa cupidité. Nos amis ont maintes fois été injustement tenus éloignés de nous, oui, même lorsque certains amis de Norwich ont longtemps attendu dehors pour entrer et nous voir, comme nous ont été déçus et empêchés de nous voir l'un l'autre. Ainsi nos amis ont été tenus dehors, et nous avons été quotidiennement maltraités dedans. Le prisonnier qui nous maltraitait le plus, l'un des ivrognes du geôlier, lança furieusement un couteau nu sur l'un d'entre nous, et, l'ayant manqué, il menaça de tuer certains d'entre nous, disant qu'au pire il serait pendu, qu'il n'avait qu'une vie à perdre. Il nous prit aussi quelques-unes de nos affaires. Nous rapportâmes le vol au geôlier et lui dîmes que, si davantage de sang était versé par ce prisonnier, cela retomberait sur lui, et s'il n'approuvait pas ce qu'il avait fait contre nous, nous souhaitions qu'il lui ordonnât de nous rendre nos affaires. Mais au lieu de cela, sa réponse fut qu'il fasse ce qu'il voudra à portée d'oreille de ce prisonnier si injurieux, ce qui l'encouragea à nous maltraiter davantage, ainsi qu'à maltraiter l'ami, la femme qui apportait nos besoins, sur laquelle il porta des mains violentes en la poussant en arrière. Le guichetier aussi, cette nuit-là, frappa 2 d'entre nous pour avoir réfuté certaines de ses calomnies jetées contre nous, et dit qu'il ne pouvait pas nous traiter assez mal. Ce prisonnier violent, qui avait menacé de tuer certains d'entre nous, encouragé par l'exemple du geôlier, du guichetier et du débitant, une nuit, étant furieusement ivre, après que nous eûmes été enfermés et verrouillés dans le quartier commun, résolut de tuer l'un ou l'autre d'entre nous cette nuit-là, et il menaça à maintes reprises en proférant des malédictions, rien ne le satisfaisait, sinon de tuer certains d'entre nous. Mais par la foi au nom et à la puissance du Seigneur, nous lui tenions tête, croyant qu'il n'aurait pas le pouvoir de faire du mal à aucun de nous, quoiqu'il en fît la tentative en prenant un tison, mais nous vîmes que son pouvoir était limité, qu'il ne pouvait faire de mal, encore moins tuer aucun de nous. Il avait un garçon dans le même quartier, d'environ 10 ans, et comme l'enfant était à genoux près du mur, effrayé de voir son père dans une telle rage, le père prit aussitôt une bouteille de pierre et la lança violemment sur son pauvre garçon, mais le manqua et la brisa en morceaux contre le mur, le pauvre enfant échappant de justesse à la mort. Car si elle l'avait atteint à la tête, il aurait probablement tué son fils. Pourtant, l'homme ivre et déchaîné continua dans sa fureur, il était déterminé à tuer quelqu'un cette nuit-là, soit son pauvre garçon, soit un autre, autrement il ne se calmerait pas. Le voyant ainsi résolu à tuer, il me vint immédiatement, avec une grande force, comme je le crus du Seigneur, ne laissons pas commettre un meurtre en notre présence. Alors je dis à mes compagnons de souffrance, saisissons-le et tenons-lui les mains et les pieds jusqu'à ce qu'il se calme. Et ils s'en saisirent aussitôt, le couchèrent doucement sur le dos et le tinrent fermement, mains et pieds pendant, je pense, plus d'une heure, durant laquelle il poussa des hurlements, mais en vain, car nous étions tous étroitement enfermés dans un lieu bas et sombre, où l'on s'entendait difficilement dans les autres parties de la prison. Non, je suis persuadé que si l'un de nous avait crié au meurtre, il serait à peine venu quelque. Cependant, nous empêchâmes le meurtre projeté en lui tenant les mains et les pieds jusqu'à ce qu'il se calma et s'endormit. Nous lui fîmes promettre, avant de le relâcher, en le surveillant de près, d'empêcher qu'il ne fît quelque méfait. Car bien que nous n'eussions pas de corde pour le lier, nous sentions qu'il avait besoin d'être ligoté ou contenu pour éviter les méfaits, autant que n'importe quel fou furieux. Whitehead décrit « la consolation de Dieu pour ceux qui sont affligés par les souffrances ». Whitehead venait d'être libéré de la dure détention, décrite en partie ci-dessus de 15 mois, pour avoir adressé à un juge, dans une lettre, son initiale du prénom et son nom de famille, au lieu du prénom et du nom. Il n'avait ni lit, ni couverture, ni visiteur. Aucune nécessité venue de l'extérieur, ses manteaux furent volés, sa nourriture volée, il fut battu, continuellement maudit, et menacé d'être tué et logé dans une salle commune avec des meurtriers et des voleurs. Pourtant, comme il le rapporte, il reçut les secrètes consolations du Seigneur. Pourtant, je demeure encore, véritablement et humblement, reconnaissant au Seigneur notre Dieu, en mémoire de sa grande bonté envers nous, combien merveilleusement il nous a soutenus et consolés à travers et par-dessus toutes ces tribulations, ces étroites réclusions et ces mauvais traitements, et nous a conservés en santé corporelle. Dans la réconfortante jouissance de sa glorieuse puissance divine et de sa présence, plusieurs d'entre nous ont souvent été amenés à chanter à haute voix en louange de son glorieux nom. Oui, ces hautes louanges ont souvent été dans nos bouches, au grand étonnement et à la grande stupeur des malfaiteurs enfermés dans le même quartier que nous. En y marchant, nos cœurs ont été élevés dans une louange vivante au Seigneur, souvent durant plusieurs heures d'affilée, avec des voix mélodieuses. Oh, la douce présence et la puissance du Seigneur notre Dieu, combien il est précieux de les goûter dans les prisons et les cachots, et dans les étroites réclusions. Ô mon âme, bénis encore le Seigneur, et loue à jamais son excellent nom, pour le vrai sentiment intérieur et l'expérience que tu as souvent et longuement eue, et que tu as encore, de sa puissance divine et de sa bonté ineffable. Gloire et domination soient à notre Dieu, et à l'agneau qui est assis sur le trône, au siècle des siècles. Que la louange soit à celui en qui se trouve notre aide, notre salut et notre force. Bien que nous fussions confinés dans un bruyant quartier commun, et dans une cour étroite et puante, sans aucun aménagement, néanmoins le Seigneur, par sa puissance, sanctifia tellement pour moi cet enfermement, que j'eus une grande paix, du réconfort et une douce consolation, et fus parfois transporté comme enveloppé en esprit, comme si j'étais dans un champ agréable, ayant le parfum et la douce odeur des fleurs et des choses qui y croissaient, bien que je ne fusse pas en extase ni en transe, mes sens furent affectés de cette manière. Le Seigneur rendit l'âme doux pour moi, et les difficultés faciles, bien que nous sentissions que nos persécuteurs et oppresseurs étaient si cruels envers nous, qu'ils ne se seraient pas souciés de nous voir tous périr dans cette prison. Mais notre confiance et notre assurance étaient dans le nom du Seigneur Jéhovah, en qui est une force et une sûreté éternelle, à qui soit la gloire, la domination et la louange à jamais sans fin. Plus tard, Whitehead fut arrêté lors d'une réunion silencieuse à Huffington ou dans le Suffolk, condamné comme vagabond et errant, et condamné à être fouetté publiquement. Whitehead relate l'exécution de la sentence. Lorsque le connétable m'eut dénudé jusqu'au-dessus de la ceinture, ce qu'il ne pouvait me persuader de faire moi-même, je les laissais plutôt exercer leur propre cruauté. L'homme, avec un long fouet aigu, frappa si violemment qu'il me coupa et me blessa le dos et la poitrine de longues zébrures, arrachant la peau et faisant couler le sang, jusqu'à ce que certaines personnes présentes s'écriassent de l'arrêter. Il y avait une grande foule, puisque cela se faisait dans un lieu public, comme une place de marché dans la rue, et beaucoup pleuraient en voyant leur cruauté. Pourtant, par la puissance du Seigneur, je fus rendu capable de tout supporter avec patience, allègrement, avec un grand réconfort et une grande joie, même au moment même de l'exécution, ce dont beaucoup furent étonnés et frappés. Combien j'eus de coups, je ne le sais pas bien, mais je me souviens que les marques en furent visibles longtemps après, tant sur mon dos que sur ma poitrine. Il m'est aussi très mémorable de voir combien merveilleusement le Seigneur, par sa puissance divine, me soutint, même tandis qu'ils infligeaient leur cruauté et leur châtiment à mon corps, au point que, même alors, mon esprit était élevé et ma bouche s'ouvrait pour chanter à haute voix des louanges au Seigneur, mon Dieu, parce qu'il m'avait jugé digne de souffrir pour son nom et pour la vérité. Quand la main du bourreau fut arrêtée de me frapper, par le cri ou l'appel qui fut fait de l'arrêter, je dis au peuple que c'était là une preuve d'un ministre du Christ, que d'endurer patiemment affliction, persécution, coups et emprisonnement, selon le témoignage du saint apôtre, nous recommandant comme ministre de Dieu par beaucoup de patience dans les afflictions, dans les coups, dans les emprisonnements, dans les troubles, comme cela est plus pleinement dans 2 Corinthiens 6:4. Et tandis que je me tenais là, nu devant eux, avec mes marques et mes blessures, je dis alors aux officiers concernés que, s'ils avaient encore quelque chose à m'infliger, j'étais prêt et disposé à souffrir, étant pour la cause du Christ, par motif de conscience. Je ne puis oublier la merveilleuse puissance, l'aide et la consolation que le Seigneur m'accorda dans cet état de souffrance, et le mépris que mes persécuteurs, par envie, avaient dessein de jeter sur moi et sur nos amis par ce genre de châtiment, légalement prévu contre les vauriens et les voleurs, mais injustement infligé à moi, qui étais innocent. À la lecture de ceci, il ne devrait y avoir aucun doute que les premiers Quakers étaient véritablement unis en Christ à Dieu, lui qui permit leur persécution, mais qui aussi les consola et les dédommagea par des effusions de sa force et de son amour, comme il a aidé et aidera ses enfants tandis qu'ils sont persécutés par les enfants envieux des ténèbres. Concernant les souffrances de Barbara Blogdon, 1609-1704, à la Great Torrington et entrant dans l'Église, dit quelques mots au peuple par voie d'exhortation, mais n'ayant pas eu suffisamment d'occasion de s'expliquer, elle alla à son logement et s'assit pour écrire. Après-midi, Les connétables vinrent à elle, lui prirent ce qu'elle avait écrit et lui commandèrent de les suivre à leur culte. Elle répondit qu'ils ne lui permettraient pas d'y parler et qu'elle ne connaissait aucune loi qui pût la contraindre à y aller deux fois dans une même journée et qu'ils savaient tous qu'elle y était le matin. Comme elle ne voulait pas y aller, le lendemain le maire la fit chercher. Lorsqu'elle arriva, elle le trouva modéré et peu enclin à l'envoyer en prison, mais le prêtre présent était très empressé de la voir punie et dit qu'elle devait être fouettée comme vagabonde. Elle lui dit alors de prouver, ou que ce soit qu'elle avait demandé à quelqu'un un morceau de pain, mais il répondit qu'elle avait enfreint la loi en parlant dans leur église. Il pressa tellement le maire qu'à la fin celui-ci rédigea un ordre d'écrou et l'envoya à la prison d'Exété, distante de 20 000. Elle y resta quelque temps jusqu'à l'arrivée des assises, tribunaux itinérants, mais ne fut pas appelée pour être jugée. Après la fin des sessions, on la fit coucher une nuit parmi une grande compagnie de gitans qui se trouvaient là en prison. Le lendemain, le shérif vint avec un bedeau astérisque, qui la fit entrer dans une pièce où il la fouetta jusqu'à ce que le sang coulât le long de son dos. Elle ne cria jamais sous les coups, mais chanta à haute voix et fut amenée à se réjouir d'avoir été jugée digne de souffrir pour le nom du Seigneur. Le bedeau en colère dit « Tu chantes, je te ferai pleurer tout à l'heure » et sur ce, il frappa si fort que, tout près Anne Speed, voyant cela, se mit à pleurer. Mais Barbara fut fortifiée par une puissance peu commune et plus qu'humaine, au point qu'elle déclara ensuite que, si elle avait été fouettée à mort dans l'état où elle se trouvait alors, elle n'aurait pas été effrayée ni abattue. Le shérif, voyant que toute la fureur de l'homme ne pouvait l'émouvoir, dit au bedeau de cesser de la frapper. Anne Speed fut, alors, autorisée à panser les marques et les blessures de Barbara. Le lendemain, on la relâcha de la prison avec tous les gitans, et le bedeau la suivit sur 2 000 hors de la ville. Mais dès qu'il la quitta, elle revint en arrière, rentra dans la prison pour voir ses amis qui y étaient encore détenus, et après les avoir visités, elle rentra chez elle à Bristol. Astérisque un bedeau était un officier religieux paroissial, dont le devoir au XVIIe et XVIIIe siècle était de punir les contrevenants mineurs. Aujourd'hui, ce sont des huissiers. Un récit de la cruauté infligée au peuple appelé Quakers à Londres par le gouvernement de la ville d'après l'histoire d'un peuple appelé Quakers, de William Soule, publié en 1685 au moment de la publication de Soule, les persécutions ci-dessous n'avaient eu lieu que 30 ans auparavant. William Soule put donc parler à des victimes réelles, à des témoins oculaires et examiner des dossiers judiciaires récents. État de persécution à Londres, où une fureur désespérée faisait maintenant rage. Bien que ce ne fût pas dans cette seule ville principale que les Quakers fussent le plus cruellement persécutés, car peu avant ce temps, il avait été publié imprimé un bref récit de la persécution dans toute l'Angleterre, signé par 12 personnes, montrant que plus de 4 200 de ce qu'on appelle Quakers, hommes et femmes, étaient en prison en Angleterre, et indiquant le nombre de ceux qui avaient été emprisonnés dans chaque comté, soit pour avoir frais. Beaucoup d'entre eux avaient été cruellement battus, ou leurs vêtements déchirés ou enlevés, et certains avaient été jetés dans des cachots si puants que quelques grands personnages dirent qu'ils n'y auraient pas mis leurs chiens de chasse. Certaines prisons étaient bondées d'hommes et de femmes, au point qu'il n'y avait pas assez de place pour que tous puissent s'asseoir en même temps, et dans le Cheshire, 68 personnes furent ainsi enfermées dans une petite pièce, signe évident qu'ils étaient un peuple inoffensif, qui n'opposait aucune résistance et n'employait pas la force. Par de tels mauvais traitements, beaucoup tombèrent malades, et un grand nombre moururent dans ces prisons, car on ne tenait compte ni de l'âge ni du sexe, et même des personnes âgées de 60, 70 ans et plus ne furent pas épargnées, et la plupart d'entre eux étant artisans, boutiquiers et laboureurs furent ainsi réduits à la pauvreté, car leurs biens aussi furent saisis pour n'être pas allés à l'église ainsi nommée, ou pour n'avoir pas payé la dîme. Bien des fois, on les força à coucher en prison sur un sol froid et sale, sans même qu'on leur permît d'avoir de la paille, et souvent on les laissa plusieurs jours sans nourriture, il n'est donc pas étonnant que beaucoup mourussent de si durs emprisonnements. À Londres et dans les faubourgs, il y avait alors pas moins de 500 Quakers emprisonnés, et certains dans des trous si étroits que chacun n'avait à peine la place de s'étendre, et l'on permettait aux criminels de les dépouiller de leurs vêtements et de leur argent. Beaucoup qui n'étaient pas emprisonnés n'en souffraient pas moins dans leurs réunions religieuses, surtout dans le lieu de réunion londonien connu sous le nom de Bull and Mouth. Astérisque là, les milices venaient fréquemment, armées le plus souvent de mousquets, de piques et de hallebardes, et conduites par un officier militaire, sur ordre de la magistrature de la ville, et se précipitant avec une grande fureur, elles se mirent à les battre, par quoi beaucoup furent grièvement blessés, certains tombèrent en syncope, et d'autres furent si violemment frappés qu'ils ne vécurent pas longtemps après. Parmi eux se trouvait un certain John Trowell, qui fut si meurtri et écrasé que, quelques jours après, il mourut. Ses amis jugèrent donc opportun de porter le corps dans le lieu de réunion susdit, afin qu'il y fût exposé pendant quelques heures à la vue de tous. Cela étant fait, suscita la compassion et la pitié de nombreux habitants, car le corps, battu comme une gelée, paraissait noir et était enflé d'une manière terrible. On fit venir le coroné, il réunit un jury de voisins et leur donna mission, selon sa charge, de faire une enquête véridique sous serment et de présenter ce qu'ils trouveraient être la cause de sa mort. En examinant le corps, ils avaient avec eux un chirurgien ou deux, afin de connaître leur avis à ce sujet. Puis, s'étant retirés ensemble en privé, ils se retirèrent finalement sans rendre de verdict, ne demandant que les amis ensevelissent le corps, ce qui fut fait ce soir-là. Et bien que le coroné et le jury se réunissent plusieurs fois à cette occasion et aient eu de nombreuses consultations, ils ne voulurent jamais rendre de verdict, mais il était suffisamment évident que l'homme avait été tué à force de coups. Les raisons que certains donnèrent pour ce refus de verdict furent que, bien qu'il fût attesté que la même personne, maintenant morte, avait été vue battue et renversée, cela s'étant fait dans une foule si confuse, aucun homme en particulier ne pouvait être désigné, de sorte que personne ne pouvait dire qu'un tel avait commis le fait. Et si un verdict était rendu que le défunt avait été tué, sans que personne en particulier ne fût accusé, alors la ville s'exposait à une forte amende, au bon plaisir du roi, pour avoir laissé commettre un tel meurtre dans la ville en plein jour, non pas en cachette mais publiquement, et pour ne pas avoir appréhendé le meurtrier, mais l'avoir laissé s'échapper. Entre-temps, les amis du défunt rendirent publiquement compte du meurtre et envoyèrent aussi une lettre au Lord Maire, qu'ils publièrent ensuite imprimée, avec un récit de cette affaire sanglante. Dans cette lettre, il était dit « On peut supposer que vous avez entendu parler de cette chose, car elle n'a pas été faite de nuit, mais à midi, non soudainement par ignorance ou par accident, mais intentionnellement et sur une longue durée, et non en secret, mais dans les rues de la ville de Londres, circonstance qui aggrave grandement ce meurtre, jusqu'à la honte et à l'infamie de cette célèbre ville et de son gouvernement. » Astérisque un nom curieux, la maison de réunion Quake de Bull and Mouse était située sur Bull and Mouse Street, dont le nom est une corruption orale de Boulogne Gatou Mouse, ainsi nommée en l'honneur du roi Henri VI, qui prit le port français de Boulogne, embouchure, en 1544. C'était à l'origine une ancienne grande demeure, ou bâtiment, dans Aldersgate. Sa cour avait auparavant été une auberge publique pour les voitures et les voyageurs, appelée le Bull and Mouse. La personne qui avait diffusé une partie de ses imprimés fut emprisonnée pour sa peine. Néanmoins, un autre emporta un au roi et lui expliqua comment la chose s'était faite. Et le roi dit alors « Je vous assure que ce n'est pas sur mon conseil que l'un de vos amis ait dû être tué. Vous devez en parler aux magistrats de la ville et poursuivre la loi contre eux. » La réponse du roi fut bientôt publiée elle aussi imprimée. Mais la violence continua néanmoins, car la personne appréhendée pour avoir diffusé les imprimés fut envoyée en prison par ordre spécial de l'échevin Brown, au sujet duquel, puisqu'il pourra être mentionné plusieurs fois dans cet ouvrage, cela me donne occasion de dire quelque chose du genre d'homme qu'il était. Du temps de Cromwell, Brown avait été très acharné contre les royalistes, notamment à Abingdon, non loin d'Oxford. Pour cette erreur, il s'efforça maintenant de se dédommager en persécutant violemment les inoffensifs Quakers. Autrement, c'était un homme de belle prestance et pouvait commettre des cruautés avec un visage souriant. Mais d'autres de ses actes pourront être rapportés plus tard. Les Quakers, voyant qu'ils ne pouvaient obtenir justice, laissèrent de côté l'affaire de l'homme assassiné, car la souffrance était désormais leur part, et ils remirent donc leur cause à Dieu. Souvent, les soldats les empêchaient d'entrer dans leur maison de réunion, mais alors ils n'avaient pas coutume de s'en aller, ils restaient dehors, et leur nombre augmentait bientôt, puis l'un ou l'autre de leurs ministres montait généralement sur un banc ou en un lieu élevé et prêchait hardiment. Étant dehors, il attirait parfois plus d'auditeurs qu'il n'en aurait eu dedans. Mais les prédicateurs étaient parfois vite tirés à bas par les soldats, alors un autre se levait pour prêcher, et ainsi souvent quatre ou cinq, l'un après l'autre, étaient emmenés, tels des brebis innocentes, et conduits en prison avec d'autres de leurs amis, jusqu'à 40 ou 50 à la fois. Cela me fait penser à ce que j'ai entendu dire à ma mère, Judith Zinspinning, qui l'année suivante était venue en Angleterre avec William Caton et sa femme, qui vivaient à Amsterdam, pour y visiter une amie, et arrivée à Londres, elle alla avec d'autres à la réunion de Bull and Mouse. L'entrée leur étant refusée, ils restèrent dans la rue, où elle vit qu'on tirait à bas un prédicateur après l'autre, au cri instantané d'un officier ou d'un autre, « Connétable, emmenez-le !» Plusieurs furent ainsi emmenés. Le connétable vint aussi vers elle, et voyant à son habit qu'elle était une Hollandaise, la tira par la manche et dit avec étonnement, « Quoi, une Quaker Hollandaise ?» Mais ne s'en prit pas davantage à elle. Cette tenue de réunion dans les rues devint alors une chose habituelle en Angleterre, car les Quakers étaient persuadés que l'exercice de leur culte public était un devoir dont nul homme ne pouvait les dispenser, et ils croyaient que Dieu exigeait l'accomplissement de ce service de leurs mains. et, en se réunissant ainsi dans les rues, il arriva parfois que plus d'un prêchait en même temps. Trois ou quatre à la fois pouvaient prêcher, l'un à un endroit, l'autre à un autre, ce qui, dans leur maison de réunion, n'aurait pas pu se faire commodément. Mais ainsi, ils gagnèrent une grande abondance de gens à l'écoute de leurs messages, et parfois des hommes éminents, passant en carrosse, faisaient arrêter leurs cochers. Par cette fortune inattendue, ils trouvèrent qu'il y avait une grande moisson, et ainsi leur église croissait au milieu des souffrances, et en ces temps durs, ils furent assez bien purifiés de leur scorie, puisque l'épreuve n'était pas pour les insincères. Car fréquenter leurs réunions en un tel temps, c'était courir le danger d'être soit emprisonné, soit battu jusqu'à l'infirmité, voire jusqu'à la mort, mais cela ne pouvait éteindre le zèle des hommes droits. Or, l'arrestation d'un prédicateur et le fait qu'un autre se levait devinrent une chose ordinaire en Angleterre, et cela dura encore longtemps après, comme j'en ai moi-même été témoin. Et lorsqu'il n'y avait plus d'hommes prédicateurs présents, une femme se levait et faisait le ministère à l'assemblée. Non, il y en eut même qui, en âge n'étant guère plus que des garçons, étaient doués d'un zèle viril et encourageaient leurs amis à la fermeté. Entre-temps, beaucoup furent aussi emprisonnés sans avoir été arrachés à leur réunion, car certains furent appréhendés pour avoir dit seulement quelque chose en faveur de leurs amis, comme Rebecca Travers, qui, étant allée trouver le lieutenant de la tour, le pria d'avoir compassion de certains emprisonnés pour avoir fréquenté des réunions. Mais il s'en irrita, et lorsqu'elle s'en alla, l'un des gardiens lui adressa de mauvaises paroles, et lorsqu'elle l'exhorta à bien faire dans sa fonction, puisque c'était la volonté du Seigneur qu'il eût cet emploi, il en fut si offensé qu'il retourna auprès du lieutenant et se plaigne qu'elle avait tenu des propos de trahison, et là-dessus elle fut appréhendée et envoyée en prison. Non, les soldats grossiers étaient encouragés à la cruauté par des officiers qui n'étaient pas meilleurs, car eux-mêmes portaient parfois des mains violentes sur des gens paisibles, comme, entre autres, le susdit fin Richard Brown, qui avait autrefois été major général sous Cromwell, et qui se conduisait alors avec une férocité si outrancière que même les comédiens n'hésitèrent pas à l'exposer, par une allusion à son nom Brown, en disant « Le diable était brun ». On imprima aussi un livre où l'on exposait au regard du public beaucoup de villes infamies, ainsi que sa conduite furieuse, et ce livre lui fut dédié avec cette petite épître « Richard Brown, si vous n'êtes pas déjà scellé pour la destruction, et si le repentir n'est pas entièrement caché à vos yeux, que le Seigneur vous convertisse et vous pardonne toutes vos dures et cruelles façons d'agir envers nous. Nous désirons votre repentance plutôt que votre destruction, et que le Seigneur Dieu du ciel et de la terre rende un jugement de détermination finale entre vous et nous, afin que toute la terre sache si votre cause contre nous, ou si notre cause est juste devant lui, qui est le seul juge juste. » Bien que publié sans le nom de l'auteur, l'un des livres fut non seulement envoyé à Brown, mais ainsi que les Quakers, comme on les appelait, l'assumaient, une trentaine d'autres furent remis au Lord Maire et au shérif de Londres, afin qu'ils puissent savoir ce qui avait été fait sous leur autorité, car certains, bien que non autorisés, osaient agir contre les Quakers, selon tout ce que leur malice leur suggérait, parce qu'ils étaient en faveur à la cour. Remis se trouvait un certain Philip Millet, qui, bien qu'il ne fût pas officier, entra pourtant, au mois de mai de cette année, dans une réunion de ces gens, dans John Street, dans la paroisse de Sepulchre à Londres, sans aucun ordre ni mandat, et une canne à la main commanda à la foule qui l'accompagnait d'arrêter qui bon lui semblerait. Puis il manda un constable, qu'il força par ses menaces à l'accompagner, et il appréhenda cinq personnes, parmi lesquelles se trouvait John Crook, dont il sera de nouveau fait mention plus loin. Quelques jours après, ce Millet revint au lieu de réunion et frappa plusieurs personnes de sa canne parce qu'elle ne voulait pas partir sur son ordre, puis il enjoignit au constable qu'il avait amené de saisir et de mettre en garde qui bon lui semblerait. Vers la fin de ce mois, un premier jour de la semaine, le capitaine Reeves et quelques soldats, avec des mousquets et des épées tirées, se ruèrent violemment dans la réunion du Bull and Mouse, où ils firent tomber celui qui prêchait, puis saisirent un autre, qui demanda à Reeves de montrer l'ordre l'autorisant à agir ainsi. Reeves répondit qu'il ne montrerait pas son autorité en ce lieu, mais il apparut ensuite qu'il n'avait aucun mandat. Pourtant, il fit emmener par ses soldats environ 40 personnes, dont certaines n'étaient pas à la réunion, mais avaient été arrêtées dans les rues, et les fit conduire dans Paul's Yard, où elles furent gardées jusqu'à la fin du culte public. Puis l'échevin Richard Brown entra dans l'endroit où les prisonniers étaient gardés et, avec une grande rage et fureur, mit d'abord la main sur une personne très âgée, et la fit tomber deux fois en la tirant par le bord de son chapeau, ce qui fit perdre celui-ci. Ensuite, il traita une autre personne de la même manière, et un soldat asséna un grand coup de pistolet sur la tête nue de cette personne. Brown traita deux autres de la même façon, puis les envoya tous à la prison de Newgate, escortés par des soldats. Le même jour, des soldats vinrent à une réunion dans Tower Street et sans aucun mandat emmenèrent 21 personnes, appelées Quakers, et les conduisirent à la bourse, où ils les gardèrent quelque temps, puis les amenèrent devant Richard Brown, qui avec une fureur extrême frappa certains et en donna des coups de pied à d'autres, ce qui amena l'un des prisonniers, voyant comment Brown frappait l'un d'eux au visage avec son poing et le frappait au tibia à dire « Quoi, Richard, veux-tu devenir meurtrier ?» Tu ne faisais pas cela quand j'étais soldat sous ton commandement à Bingdon, et que tu me commandais, avec d'autres, de fouiller les maisons des gens à la recherche de tourtes et de viandes rôties, parce qu'ils célébraient Noël comme un temps saint. Les puritains cromwelliens considéraient Noël, avec échange de cadeaux et festins, comme enraciné dans l'anniversaire païen du dieu romain Saturne, et nous amenions les personnes comme prisonniers à la garde, pour avoir observé la même chose. Car Brown était alors un homme si scrupuleux qu'il prétendait extirper cette coutume superstitieuse, quoiqu'il y ait lieu de douter de la sincérité de son cœur à cet égard. Quoi qu'il en soit, un zèle aveugle de cette sorte n'était pas propre à convaincre les gens de superstition. Brown, sachant que cela avait offensé ceux de l'Église d'Angleterre, s'efforça maintenant de s'en dédommager par sa brutale férocité contre les Quakers inoffensifs, et ainsi de gagner la faveur des ecclésiastiques et de ceux de la cour du roi. Revenus au pouvoir, les Anglicans revinrent au pouvoir, remplaçant les Puritains peu après la mort de Cromwell. Un membre de la maisonnée de Brown, ayant entendu ce qui lui était dit, répliqua « Voilà un oiseau d'Abingdon ». À quoi Brown répondit « Il n'en est pas moins un vaurien » et le frappa de son poing sous le menton, ce qui fit dire à un autre prisonnier « Quoi, vous êtes magistrat et vous frappez les gens ». Sur quoi Brown, des deux mains, le jeta à terre en le tirant par le bord de son chapeau, puis commanda aux soldats de les emmener tous et de les conduire à la prison de Newgate. Un premier jour de la semaine, dans le mois appelé juin, une troupe de soldats entra dans la réunion du Bullenmouth, avec des piques, des épées tirées, des mousquets et des mèches allumées, comme s'ils allaient au combat, bien qu'ils sussent fort bien qu'ils n'y trouveraient que des gens inoffensifs. La première chose qu'ils firent fut de faire tomber celui qui prêchait, qu'ils traînèrent hors de la réunion, se réjouissant comme s'ils avaient remporté une grande victoire. Puis ils le conduisirent à la garde principale à Saint-Paul, et retournèrent au Bullenmouth, où ils en appréhendèrent encore quelques-uns, qu'ils conduisirent également à Saint-Paul. Après quelques heures, ces prisonniers furent conduits à la maison de l'échevin Brown, et lui, demandant les noms des prisonniers et entendant celui de John Perrault, dit « Quoi, vous avez été à Rome pour subvertir ?» Mais se reprenant, il dit « Pour convertir le pape ». Sur quoi Perrault lui dit « Il avait souffert à Rome pour le témoignage de Jésus ». Alors Brown répliqua « Si vous aviez converti le pape à votre religion, je l'aurais aimé bien plus mal que je ne l'aime maintenant ». À quoi Perrault répondit « Mais Dieu l'aurait aimé davantage ». Après un bref échange de plus, Brown les envoya tous à Newgate. Commentaire de l'éditeur du site. Perrault devint un persécuteur acharné des Quakers en Virginie, après avoir d'abord été expulsé de la société pour s'être opposé, en se séparant, au fait d'ôter son chapeau pendant la prière, disant que c'était une forme et une imposition à sa conscience individuelle, alors que des milliers d'autres Quakers comprenaient, avec confirmation de la lumière, exactement l'inverse. Il était immature et si rempli d'orgueil que, peu après avoir été convaincu, il se jugea digne d'aller à Rome convertir le pape, sans jamais échanger un mot avec lui. Il écrivit aussi deux pamphlets contre les Quakers et fut pris à falsifier le nom d'Edward Burroughs sur un autre document plein de mensonges, dont l'objectif était de discréditer gravement la société. Ainsi, en ce temps-là, les réunions de ceux qu'on appelait Quakers étaient troublées, et je pourrais, si nécessaire, en produire bien d'autres exemples. Une fois, un homme nommé Cox, marchand de vin, vint avec quelques soldats à une réunion. Après avoir usé d'une grande violence, ils arrêtèrent deux Quakers, qu'ils battirent très cruellement, parce qu'ils refusaient de les suivre, bien qu'ils ne montrassent aucun mandat. Enfin, les soldats les portèrent tous deux sur des mousquets jusqu'à Paul's Yard, et lorsqu'ils les posèrent, ils traînèrent l'un d'eux par les talons, sur le dos, d'une manière très barbare. Cela fait, on entendit le dit tonnelier en vain dire qu'il irait se prendre une tasse de bière, car ces diables l'avaient épuisé. Pourtant, il se rendit à un autre lieu de réunion de ces gens, où il se conduisit aussi très méchamment, et lorsqu'on lui demanda son ordre, sa réponse fut de brandir son épée « Voilà mon ordre ». Ainsi, il semble qu'il voulait se rendre agréable à Brown, qui, étant alors en faveur à la cour, fut fait chevalier, et quelque temps après aussi élu Lord Maire de Londres. Par la conduite furieuse de Cox, les soldats furent également encouragés à commettre toutes sortes de méfaits, au point que, lorsqu'on leur demandait quel ordre ils avaient pour leurs agissements, l'un, levant son mousquet, disait « Voilà mon ordre ». Ainsi les choses se faisaient désormais à la loi du gourdin. Les soldats ne respectaient pas non plus l'âge. Ils emmenèrent d'une réunion à Mylène deux garçons, l'un d'environ 13 ans et l'autre d'environ 16, et ils furent conduits devant le lieutenant de la tour, lequel, à quelqu'un présent qui disait qu'il supposait qu'ils n'avaient pas 16 ans et n'étaient donc pas punissables selon l'acte, répondit qu'ils étaient assez âgés pour être fouettés et qu'on les fouetterait hors de leur religion. Il les envoya donc à Bridewell, où on leur mit les mains dans les entraves, et on les pinça pendant l'espace de 2 heures, au point que leurs poignets étaient très enflés, et cela fut fait parce qu'ils refusaient de travailler, persuadés qu'ils n'avaient pas mérité d'être ainsi traités, ils ne mangèrent rien non plus aux frais de l'atelier de Midworkhouse. Ces garçons, bien qu'assez longtemps dans cette prison, demeurèrent fermes, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur, et ils écrivirent une lettre aux enfants de leurs amis, les exhortant à être fidèles en portant leur témoignage pour le Seigneur, contre toute méchanceté et injustice. Quelques jours avant ce temps, Thomas et John Herbert, vivant à Londres, et d'autres mousquetaires, entrèrent les pieds nus dans certaines demeures particulières et en enfoncèrent deux ou trois portes, car lorsque l'on voyait des personnes entrer dans une maison, même seulement pour rendre visite à des amis, on appelait cela une réunion. Or, il arriva que, dans une maison, ces rustres trouvèrent cinq personnes ensemble, dont l'une était William Ham, venu là de Hollande, et une autre Samuel Fiché. Et lorsqu'on demanda quel mandat ils avaient, ils levèrent leurs épées et dirent « Ne nous demandez pas de mandat, voici notre mandat. » Et sur le champ, ils emmenèrent ces personnes de force et les conduisirent à Paul's Yard, où elles furent la risée des soldats. Là, elles furent conduites à la bourse, où elles ne reçurent pas un meilleur accueil de la part des soldats grossiers. Ensuite, on les mena à la maison de l'échevin Brown dans Ivy Lane. Il les envoya à Bridewell Prison avec un ordre de détention pour y être gardés au travail forcé. Mais ensuite, y repensant et trouvant que son ordre était sans justice, car ces personnes n'avaient pas été prises dans une réunion, le lendemain matin il envoya un autre ordre, par lequel on les accusait de s'être assemblés illégalement pour le culte. Si l'un des mousquetaires avait entendu l'une de ces personnes parler par manière d'exhortation à la fidélité en ce temps brûlant de persécution, cela aurait été tenu pour une accusation suffisante, bien que non recevable en droit. Mais ils employaient des accusations fuyantes, aussi pauvres ou sottes qu'elles fussent. Ainsi, ces personnes furent écrouées à Bridewell et contraintes de battre du chanvre, et on les traita si sévèrement que W. Ham tomba malade, presque à en mourir, c'est pourquoi il fut relâché, car en un sens on pouvait dire que son domicile était à Amsterdam en Hollande, puisqu'il y demeurait la plupart du temps depuis plusieurs années de suite, et pour ne pas être à char, il travaillait au peignage de la laine, et si l'on alléguait qu'il était d'Amsterdam, il semble qu'on ne voulait pas le laisser mourir en prison, comme certains de ses amis y étaient déjà morts. Les autres, après 6 semaines à Bridewell, furent présentés aux sessions de Hell Old Bailey Tribunal, mais, au lieu d'être jugés pour ce dont on les accusait, on leur demanda de prêter le serment d'allégeance, comme seule affaire selon ce que dit le greffier adjoint pour laquelle on les y avait amenés. Les prisonniers demandèrent alors que la loi fût lue, en vertu de laquelle on exigeait de le dire serment. La cour promit de le faire, mais, au lieu de cela, elle ordonna au greffier de ne lire que la formule du serment, et ne permit pas que la loi qui l'imposait fût lue. Mais avant que les prisonniers eussent soit déclaré leur volonté de le prêter, soit leur refus, on ordonna de les emmener, ce que les officiers firent avec une telle violence qu'ils en jetèrent certains à terre sur les pierres. Cela fit dire à Samuel Fiché, « Prenez note, Jean, que nous n'avons pas encore refusé de prêter le serment, mais la cour refuse d'accomplir la promesse qu'elle vient de faire devant vous tous, que ce statut serait lu. Si jamais de tels agissements prospèrent, ce doit être quand il n'y a pas de Dieu. » Mais cela ne fut pas pris en considération, et les prisonniers, sans aucune justice, furent envoyés à Newgate. Parmi eux se trouvait aussi un certain John Rowell, que l'échevin Brown avait envoyé travailler à Bridewell parce que, lorsqu'il avait été amené devant lui, il n'avait pas dit d'emblée quel était son nom. Et lorsqu'on lui demanda au tribunal pourquoi il n'avait pas donné son nom, il répondit que c'était parce qu'il avait été battu et maltraité en présence de Richard Brown quand on l'avait amené devant lui. Brown, qui était aussi sur le banc, lui demanda rudement « Où avez-vous été maltraité ?» et Rowell répondit « On m'a fait saigner en votre présence, ce qui ne devrait pas être fait en présence d'un juge de paix. » Mais Brown, devenant très impétueux, répliqua « Cessez votre bavardage, ou il s'en fera autant ici de nouveau en présence de la cour. » Vers la mi-été, Daniel Baker revint en Angleterre après une sévère persécution à Malte, et environ 15 jours après son arrivée, lui et 4 autres furent pris par une troupe de soldats à la réunion du Bullenmouth et conduits à Paul's Yard. Après y avoir été gardés quelques heures, ils furent amenés à la prison de Newgate, mais le soir, ils furent conduits devant l'échevin Brown, à qui Baker dit avec douceur « Que la crainte de Dieu et sa paix s'établissent dans votre cœur. » Mais Brown se mit à rire et dit « J'aimerais mieux entendre un chien aboyer » et, usant d'autres expressions de moquerie, il accusa Baker et les autres d'avoir enfreint la loi du roi en se réunissant. À quoi Baker dit « Au jour des apôtres, les serviteurs de Dieu reçurent l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus, et ils répondirent « Et moi aussi, s'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, jugez-vous-même. » Il cita aussi le cas des 3 enfants à Babylone et de Daniel, qui n'obéirent pas au décret du roi. Mais Brown devint si furieux qu'il commanda à ses hommes de frapper Daniel au visage. Ils le firent, et le jetant 4 ou 5 fois à terre, ils le frappèrent de leurs poings et lui tordirent le cou comme s'ils voulaient l'assassiner. Ces gaillards agissaient ainsi pour plaire à Brown, se montrant prêts à tout service, si abominable fût-il. Et Baker, repensant à ses voyages, fit remarquer que même les Turcs et les païens abhorraient de telles actions brutales. Ses compagnons de prison furent aussi maltraités par Brown, puis renvoyés à Newgate. Après quelques jours, ils furent appelés aux sessions du tribunal, où l'acte d'accusation fut lu, lequel, comme dans les autres cas semblables, était généralement rédigé en ces termes, que les prisonniers, sous prétexte d'accomplir un culte religieux autrement que selon les lois établies du royaume d'Angleterre, s'étaient illégalement et tumultueusement rassemblés et assemblés, à la grande terreur des sujets de Sa Majesté et au trouble de la paix du roi, au mépris de notre dit seigneur le roi et de ses lois, et pour le mauvais exemple de tous autres des. L'acte d'accusation ayant été lu, aucun témoin ne parut contre les prisonniers hormis Brown assis sur le banc. On leur proposa donc le serment, comme piège ordinaire, car il était suffisamment connu que leur profession ne leur permettait de prêter aucun serment. Refusant de jurer, ils furent renvoyés en prison, pour y demeurer jusqu'à ce qu'ils eussent prêté le serment. Si je voulais rapporter ici tous les cas semblables qui se sont produits, je pourrais trouver plus de travail que je ne serais capable d'en accomplir, car ce tourment par le serment était devenu si commun, que certains ont été saisis dans les rues et amenés devant un juge de paix, pour qu'il leur proposa le serment et en cas de refus, les envoya en prison bien que cela fût directement contraire au statut de la Magna Carta, qui disait expressément « Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, ni privé de son Mais cela ne fut pas pris en compte par Richard Brown, qui faisait tout ce qu'il voulait, car la force et la violence dominaient alors. Et parfois, lorsque les prisonniers étaient amenés à la barre pour avoir fréquenté des réunions, on leur refusait la liberté de se justifier, mais leur lot était d'être rudoyé et entravé. Il arriva une fois qu'un prisonnier, qui avait autrefois été soldat sous les ordres de Brown, voyant qu'on n'observait ni justice ni équité, l'interpella en disant qu'il n'était pas digne de siéger sur le banc, car il avait fait pendre le fils à la place du père à Abingdon, de sorte qu'il pouvait prouver qu'il était meurtrier. Cette parole hardie causa quelques troubles au tribunal, et Brown, bien que l'accusation fût grave, ne le nia pas en cour ni ne s'en disculpa. Pourtant, les autres prisonniers Quakers n'approuvèrent pas ce reproche, mais déclarèrent que même si le fait était vrai, ils n'étaient pas pour outrager un magistrat sur le banc, dont ils respectaient et honoraient la place et la charge. Mais je ne trouve pas que Brown, pour ce motif, ait jamais poursuivi celui qui parla si hardiment, bien qu'il fît par ailleurs tout ce qu'il voulait, sans craindre que ses collègues magistrats, qui le respectait parce qu'il était en faveur à la cour, ne le désavoue, comme il apparaîtra par l'exemple suivant. Une certaine personne, qui avait été emmenée en prison d'une manière très violente et injurieuse par les soldats hors d'une réunion, parce qu'elle ne voulait pas y aller, dit au tribunal que son refus d'y aller venait de ce qu'il ne voulait pas lui montrer de mandat pour l'arrêter, puisque, pour autant qu'il en savait, ils pouvaient être des voleurs ou des meurtriers, avec lesquels il n'était pas tenu d'aller. Mais Brown, partisan de la violence, lui dit que s'il l'avait traîné à travers tous les ruisseaux et immondices de la rue, il ne lui avait fait que justice s'il ne voulait pas y aller. Il parla avec une telle fureur qu'un des prisonniers lui dit « Vous avez reçu bien des avertissements et des visitations dans l'amour de Dieu, mais vous les avez méprisés, prenez donc garde d'être scellés dans la colère de Dieu. » Alors l'un des geôliers vint avec sa canne et frappa plusieurs des prisonniers si fort que plusieurs furent très contusionnés, et il fut rapporté par certains que Brown cria « Rassommez-le, quoique d'autres, pour atténuer un peu, et dit « Jetez-le à terre ». Mais la première version semble la plus probable, car les coups étaient si violents que certains spectateurs crièrent « Meurtre, meurtre » et demandèrent « Permettrez-vous qu'on tue des hommes dans le tribunal ?» sur quoi l'un des shérifs en personne descendit de son siège pour arrêter les coups. Mais Brown était si désespérément rempli de colère qu'il dit aux prisonniers « Si l'un de vous est tué, votre sang sera sur votre propre tête, et le bourreau, qui se tenait là, son baillon à la main, menaça de baïonner tout prisonnier qui dirait quoi que ce soit. Ainsi, l'innocence fut contrainte de céder à la violence. Et une fois lorsque, à la question juridique ordinaire, coupable ou non coupable, quelqu'un répondit « Je n'y être coupable, et je peux dire que je ne suis pas coupable », et aussi en latin « non resum », il fut pourtant condamné comme muet et amendé en conséquence, bien que les mots qu'il prononçait signifiaient pleinement « non coupable », quoiqu'il ne les eût pas exprimés dans les mêmes termes. Mais alors, il s'employait à contrarier les Quakers en toutes choses. Je mentionnerai encore quelques exemples de la brutalité de Brown avant de le quitter. Un autre, sommé de répondre à son acte d'accusation, coupable ou non coupable, et ne répondant pas sur le champ, mais réfléchissant un peu à ce qu'il pouvait dire en toute sûreté, Brown dit en se moquant « Nous aurons une révélation tout à l'heure », à quoi le prisonnier répondit « Combien de temps vous opposerez-vous à l'innocent ?» Combien de temps persécuterez-vous la semence juste de Dieu ? Mais pendant qu'il parlait, Brown se mit indécemment à crier, dans le langage de ces filles qui vont crier de haut en bas dans la rue, « Ah ah ah, voulez-vous des huîtres de Wall Fleet ?» et, Avez-vous des déchets de cuisine, mes bonnes? Et quand un prisonnier à la barre dit qu'il ne pouvait, par scrupule de conscience, s'abstenir de se réunir parmi le peuple de Dieu, Brown répliqua grossièrement, « La conscience, une queue de chien. » Et quand l'échevin Adams, parlant à l'un des prisonniers, dit, « Je suis désolé de vous voir ici, désolé, » dit Brown, « De quoi devriez-vous être désolé ?»« Oui, » dit Adams, « c'est un homme sérieux. » Mais Brown, qui ne pouvait supporter d'entendre cela, répondit qu'il n'y avait jamais eu d'homme sobre parmi eux, entendant parler les Quakers. Les spectateurs, qui le remarquaient beaucoup, détestèrent extrêmement cette attitude. Mais il semblait tout à fait endurci, car à un certain moment, deux personnes étant jugées pour avoir cambriolé une maison, il leur dit qu'ils étaient les plus grands vauriens d'Angleterre, à l'exception des Quakers. Il arrivait parfois que les prisonniers fussent amenés à la barre sans avoir été inculpés, et lorsqu'ils disaient « Qu'avons-nous fait ?» et demandaient justice, Brown, n'ayant aucun acte d'accusation contre eux, criait souvent « Prêtrez-vous le serment. » Et eux disant alors que, par scrupule de conscience, ils ne pouvaient jurer, ils étaient condamnés comme transgresseurs, bien que de telles procédures fussent directement contraires à la loi. Mais cela semblait alors peu digne d'attention. Cependant, quelque temps auparavant, il arriva à Setford, dans le comté de Norfolk, que le juge Windham, se montrant alors juste dans un cas semblable, réprimanda vivement les juges sur le banc pour avoir non seulement fait emprisonner certaines personnes, mais aussi les avoir amenés à la barre alors qu'aucun accusateur ne se présentait contre elle. Mais Richard Brown faisait tout ce qu'il voulait et se montrait extrêmement furieusement méchant quand un prisonnier était amené devant lui avec son chapeau. Un certain John Brown, arrêté dans la rue et non dans une réunion, fut amené par des soldats devant Brown, qui, le voyant avec son chapeau, ordonna qu'on le jetât à terre 6 ou 7 fois, et lorsqu'il était à terre, on lui battait la tête contre le sol et on le piétinait, et Brown, comme un fou, leur dit de lui arracher le nez. Alors ils le tirèrent très violemment par le nez. Et quand il se releva, ils le jetèrent à terre en le tirant par les cheveux, puis, par les cheveux, le relevèrent de nouveau. Et lorsqu'il voulut parler pour sa défense contre cette cruauté, Brown leur dit de lui fermer la bouche. Alors ils ne se contentèrent pas de le frapper à la bouche, mais lui bouchèrent aussi la bouche et le nez si hermétiquement qu'il ne pouvait plus respirer et faillit être étouffé, à quoi Brown se mit à rire et finalement l'envoya en prison. Thomas Speer, amené devant Brown, celui-ci commanda qu'on lui ôtât son chapeau, et parce que ce ne fut pas fait avec la violence qu'il souhaitait, Brown fit remettre le chapeau sur la tête de Speer en disant « Il ne doit pas être arraché si facilement ». Puis on le tira à terre par son chapeau et on le releva par les cheveux. William Reel, amené devant lui, Brown ordonna qu'on lui arrachât son chapeau afin que sa tête fût courbée. Alors, ayant été tiré à terre, il fut relevé par les cheveux. George Ableson fut ainsi tiré 5 fois de suite à terre et relevé par les cheveux, et si fort frappé au visage ou sur les côtés de la tête qu'il chancelait et saignait, et resta plusieurs jours dans de grandes douleurs. Nicholas Blitrold, amené devant Brown, celui-ci prit son chapeau des deux mains, s'efforçant de le tirer à terre, et parce qu'il ne tomba pas tout à fait vers l'avant, il le poussa pour le faire tomber en arrière, puis il lui donna un coup de pied à la jambe et le poussa hors des portes. Quand Thomas Lacey fut amené devant lui, Brown lui-même lui porta un coup au visage, et Isaac Mary, John Cook, Hans Baker et d'autres ne furent guère mieux traités, de sorte qu'ils semblaient plus propres à être bourreaux qu'échevin ou juge. Mais je me lasse de mentionner encore d'autres exemples de sa cruauté. Ces abominables exploits furent publiés par écrit plus au long que je ne les ai rapportés, et le livre, comme il a déjà été dit, lui fut dédié. Et pourtant, je ne trouve pas que quelqu'un ait été poursuivi à ce sujet. Bien que Brown fût si outrageusement méchant, qu'on pourrait penser qu'il avait quelques motifs financiers dans sa méchanceté, comme un marchand de bois prenant de brûler des gens au bûcher pour aider à vendre son bois. En ce temps brûlant de persécution, Francis Raugel écrivit et publia le papier suivant pour encourager ses amis. Mouvements de mon cœur ont été nombreux, profonds et pesants depuis des mois, des semaines et des jours, au sujet de ce peuple que le Seigneur a suscité pour rendre témoignage à son nom, en ce jour de sa puissance, et l'intercession a été souvent faite pour auprès du Seigneur, et une attente patiente de connaître sa pensée les concernant pour le temps à venir, ce dont je recevais souvent la satisfaction quant à moi-même, mais pourtant il y avait encore quelque chose à quoi le Seigneur m'attirait à attendre, afin que je puisse compter. Et tandis que j'attendais, hors de toute chose visible, et tout à fait hors du monde en mon esprit, et mon cœur sur rien d'autre que le Dieu vivant, le Seigneur ouvrit les sources du grand abîme et inonda tout mon cœur de lumière et d'amour, et mes yeux étaient comme une fontaine, à cause des larmes de joie, cause de son héritage dont il me montra et me dit dans une puissance pleine, fraîche et vivant, et un témoignage saint et complet, de sorte que mon cœur y fut ravi d'une joie ineffable. Et j'étais hors du corps avec Dieu dans son paradis céleste. Enfin la vie se referma avec mon entendement, et mon esprit l'écouta, et le Dieu éternel dit, « Cacherai-je quelque chose à ceux qui cherchent ma face dans la justice? Non, je le manifesterai à ceux qui me craignent, je parlerai, et toi écoute, et publie-le parmi tout mon peuple, afin qu'ils soient consolés, et toi satisfaits. Et ainsi parla le Dieu vivant du ciel et de la terre, le 28 du troisième mois, 1662. Le soleil quittera son éclat resplendissant et cessera de donner de la lumière au monde, et la lune sera tout entière ténèbre et ne donnera aucune lumière à la nuit. Les étoiles cesseront de connaître leur office ou leur place. Mon alliance avec le jour, la nuit, les temps et les saisons prendra fin plus tôt que l'alliance que j'ai faite avec ce peuple, dans laquelle ils sont entrés avec moi, ne prendra fin ou ne sera rompue. Oui, quand bien même les puissances des ténèbres et de l'enfer s'uniraient contre eux, et que les mâchoires de la mort ouvriraient leurs bouches, pourtant je les délivrerai et je les conduirai à travers tout. Je confondrai leurs ennemis comme je l'ai fait pour Jacob, et je les disperserai comme je l'ai fait en Israël au jour d'autrefois. Je saisirai leurs ennemis, je les lancerai çà et là, comme des pierres lancées par une fronde, et le mémorial de cette nation, les premiers Quakers qui m'est sainte, ne sera jamais déraciné, mais vivra au fil des âges, comme un nuage de témoins, dans les générations à venir. Je les ai conduits à la naissance, oui, je les ai fait naître, je les ai emmaillotés, et ils sont à moi. Je les nourrirai et les porterai comme sur des ailes d'aigle, et bien que des nuées s'amassent contre eux, je m'y frayerai un chemin, bien que les ténèbres s'amoncellent en tas et que des tempêtes se forment, je les disperserai comme par un vent d'Orient, et les nations sauront qu'ils sont mon héritage, et elles sauront que je suis le Dieu vivant, qui plaidera leur cause contre tous ceux qui se dressent en opposition contre eux. Ces paroles sont saintes, fidèles, éternelles, bonnes et vraies. Bénissons ceux qui entendent et croient jusqu'à la fin, et à cause d'elles, il ne resta plus en moi aucune force pendant un moment. Mais enfin mon cœur fut rempli de joie, comme lorsque l'arche de Dieu fut transportée de la maison d'Obdédom, lorsque David dansa devant elle et qu'Israël poussa des cris de joie. Francis Raugel, cet écrit de Francis Raugel, homme pieux, ainsi que bien d'autres exhortations puissantes de ceux qui allèrent vaillamment devant, fut un grand encouragement en ce temps de sévère persécution. Car si furieux que fussent leurs ennemis, ils demeurèrent néanmoins fidèles dans les supplications et les prières ferventes à Dieu, afin qu'il lui plût de les assister dans leurs ailes droits. Eux qui ne visaient rien pour eux-mêmes mais, par une crainte vraie et une révérence devant lui, n'osaient omettre leurs assemblées religieuses. Et ils trouvèrent que le Seigneur entendait leurs prières, de sorte que je me souviens avoir entendu quelqu'un dire que, lors d'une réunion où ils semblaient en danger de mort à cause de leurs farouches persécuteurs, c'était comme s'il avait été ravi, au point qu'il savait à peine s'il était dans ou hors du corps. Persévérant avec fidélité dans ce qu'ils croyaient que le Seigneur exigeait d'eux, avec le temps, quand leurs ennemis pensaient être sur le point de détruire les Quakers, ils virent le Seigneur Dieu Tout-Puissant se lever pour leur défense et anéantir et confondre les desseins pervers de leurs cruels persécuteurs, comme on le verra au cours de cette histoire. Continuez vers souffrance dans les autres villes anglaises, continuez vers procès injuste de William Penn, William Mead et John Crook, continuez vers souffrance en Amérique. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.